La presse française emboîte le pas à Fortnite et aux grands journaux américains. Une lettre envoyée il y a tout juste une semaine, destinataire Tim Cook. On va tout vous raconter avec celui qui a tout coordonné. Il s'appelle Bertrand Gier. Une interview exceptionnelle pour comprendre les relations entre Apple et les médias français. WatchOS 7 et tvOS 14 en test. Notre première prise en main de l'Apple Watch Series 6. Luna, le coup de tonnerre d'Amazon dans l'univers du jeu vidéo. Et puis le détecteur de fumée Netatmo. Du lourd à nouveau pour cet épisode 6. iWeek, la semaine Apple, le podcast, jeudi 1er octobre 2020. Bonjour à tous, bonjour à chacun de vous, mademoiselle, madame, jeune homme, monsieur. Où est-ce que vous êtes d'ailleurs quand vous nous écoutez? Est-ce que vous êtes dans les transports? Est-ce que vous êtes en train de faire du sport? Est-ce que vous êtes en train de faire la cuisine ou du repassage? iWeek, LSA, c'est le hashtag. Tweetez et racontez-nous où vous nous écoutez. Ben on avoue qu'on aimerait bien savoir. Je m'appelle Benjamin Vincent, je suis à la tête de cette joyeuse bande des meilleurs spécialistes français de l'univers Apple. J'ai pas peur de l'affirmer et c'est aussi les plus sympas. Alors bonjour les amis et salut Jean-Christophe.
Salut Benjamin, salut à tous.
Comment tu vas?
Eh ben très bien, la nuit a été courte mais ça m'a permis de tester ma nouvelle Apple Watch. Je vous raconterai ça.
Salut François.
Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir.
Idem, idem François, un grand plaisir. Salut Élie.
Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde.
Bon alors, 6 ou 13 pour la keynote?
Et on ne sait toujours pas, mais il semblerait qu'on s'oriente vers le 13.
Ah, donc avec une
et
dispo.
Et oui, on va faire notre mea culpa.
Oui, mais avec une dispo qui ne serait pas le 16 du coup. Hein.
Non. Non, c'est ça qui est embêtant, c'est toujours 10 jours après.
Voilà. Bon, on enregistre cet épisode le mercredi soir, donc il peut peut-être se passer des choses d'ici jeudi 20h. Je préfère vous le dire comme ça, il n'y aura pas de malentendu entre nous. Et puis je fais une grosse bise à Gilles en attendant de te retrouver très vite, mon Gilou. Alors c'est un épisode exceptionnel aujourd'hui, et pas seulement parce qu'on vient de fêter notre premier mois d'existence et la 100e note sur Apple Podcast. D'ailleurs, toujours 5 sur 5, un merci infiniment, surtout continuez de nous mettre des étoiles et puis abonnez-vous au podcast, on veut rester dans le peloton de tête, c'est super important. Aujourd'hui donc, pour la première fois, on a un guest. Alors j'ai gardé le suspense depuis 48 heures, au grand désespoir de plusieurs d'entre vous, dont Marcos X, qu'on salue amicalement et qui, je crois, était quasiment sur le point de me corrompre pour avoir un nom. Non, je plaisante. Cet invité, c'est Bertrand Gier. Alors il est à la fois directeur délégué du Pôle News du Figaro et président du GEST, le groupement des éditeurs de services en ligne. C'est le GEST qui a envoyé une lettre ouverte à Tim Cook il y a une semaine, une lettre intitulée « L'audace est dans le fair play » ou « Quand les 30% de commission sur l'App Store mettent en danger la presse française ». Dans quelques instants, vous allez apprendre plein de choses sur les relations entre les grands médias français et Apple, et aussi sur cet équilibre très fragile. On est évidemment dans l'onde de choc de l'affaire Fortnite. Au programme aujourd'hui dans cet épisode 6, deux tests, ou presque trois en fait cette semaine. WatchOS 7, ce sera avec toi François. Alors en un mot, tu dirais quoi?
C'est bien, mais pas top.
Et puis ce sera le deuxième test d'OS, comme promis, tvOS 14, le nouvel OS de l'Apple TV. Et Ellie, on peut dire d'abord qu'il s'installe tout seul.
Oui, et c'est en fait, on aurait pu l'appeler tvOS 13+.
Ouais, d'accord.
Ou 14 mois.
Bon, bah on ne fera pas une heure dessus, mais vous saurez quand même tout sur ce qui a changé si vous allumez votre Apple TV, ce que vous n'avez peut-être pas fait depuis quelques jours. On va aussi vous donner notre premier sentiment sur l'Apple Watch série 6. Ce sera avec toi, Jean-Christophe. Alors, comme ça, en apéritif, premier bilan.
Beaucoup mieux que mon Apple Watch 4, pas forcément assez pour changer.
Bon, actu oblige. Pas de c'est tout nouveau, ni de tuto audio cette semaine, on est full, on retrouvera la veille produit la semaine prochaine avec toi, Ellie. Et puis le pratique qui s'écoute, je m'en occuperai la semaine prochaine, sans faute. Vu d'ailleurs, ce sera tout à l'heure l'actualité Apple vue des US. Et Jean-Christophe, tu vas nous chanter Walking on the Moon?
À peu près, je vais vous parler de Luna. Luna, c'est un nouveau service de jeu en streaming qui, surprise, va fonctionner sur l'iPhone.
Dans le dernier quart d'heure, ma maison connectée, ce sera avec toi François. Je regarde, tu n'as pas de fumée qui sort des oreilles, ça tombe bien.
Et non, et de toute façon, s'il y avait eu de la fumée à sortir de mes oreilles, vous auriez entendu une jolie sonnerie grâce au détecteur de fumée Netatmo que je vais vous présenter aujourd'hui.
Dans un instant, notre tout premier invité dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, il est l'une des voix les plus écoutées en France quand on parle de l'avenir de la presse, du digital, et il est à la tête de la fronde des éditeurs de quotidiens et de magazines qui font monter la pression sur Apple dans le sillage de l'affaire Fortnite. Quand la presse française emboîte le pas à Epic Games, bonjour Bertrand Gier.
Bonjour Benjamin, bonjour François.
Merci Bertrand d'être avec nous dans ce sixième épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Vous êtes directeur du pôle news du Figaro, avec une double casquette, papier et digital. Et vous êtes aussi président du GEST, le groupement des éditeurs de services en ligne. Le GEST qui a coordonné l'envoi d'une lettre à Apple, c'était jeudi dernier. Cette lettre plaide pour une commission équitable, raisonnable et non discriminatoire sur l'App Store. Fin de citation. Alors Bertrand Gier, Fortnite, la presse française, même combat ?
Alors d'abord, il faut signaler que c'est pas simplement la presse française et pas simplement le GEST, mais également un mouvement européen, puisque l'association ENPA, qui regroupe les publishers européens, News Media Europe, etc., s'est associée à ce courrier commun que le GEST a rédigé avec l'aide de l'Alliance de la presse d'information générale, c'est-à-dire les quotidiens, et puis également le SPIL et la presse spécialisée. Le SPIL, c'est les pure players. Donc, c'est vraiment un mouvement d'ensemble. Et effectivement, le constat est que de plus en plus, le modèle de la presse se développe et se déploie vers les abonnements numériques. C'est quasiment l'une des seules voies de sortie pour continuer à financer du contenu de qualité. On pense que c'est extrêmement important. Heureusement, Apple nous aide à travers les applications, nous propose des parcours qui sont vraiment bien faits, qui nous permettent de recruter pas mal d'abonnés à travers nos applications et à travers les stores. Ça c'est formidable. Mais malheureusement, on va dire pour ce service, Apple prélève, comme pour beaucoup d'autres services, 30% du montant TTC qui est payé par l'utilisateur, ce qui est quand même extrêmement important. Et ce d'autant plus que on parle d'un prélèvement qui se situe dans la récurrence. Hein. On n'est pas sur de l'apporteur d'affaires, sur un mois, deux mois, trois mois, mais on est sur la continuité. C'est vraiment extrêmement, extrêmement pénalisant. Et c'est vrai qu'il y a un mois, les éditeurs américains ont, on va dire, signalé assez fortement et se sont unis, ce qui est assez rare chez les Américains, pour dénoncer un peu cette attitude, et qu'on emboîte le pas parce que il y a une dimension économique qui est vraiment importante, et puis il y a une dimension j'allais dire presque spirituelle, qui est de dire qu'en ce moment on a besoin d'aider un peu les gens qui produisent du contenu. Vous en savez quelque chose, je pense que c'est une quantité infinitésimale dans le chiffre d'affaires d'Apple, et que donner un coup de main à cette vieille presse qui se débat et qui se donne tant de mal pour continuer à produire des contenus de qualité, ça serait quand même un geste assez noble de la part d'Apple.
Est-ce qu'Apple vous a répondu, Bertrand ?
Non, à ce stade et à ma connaissance, donc Tim Cook, c'est-à-dire qu'il y a sans doute d'autres choses à faire pour le moment, mais je suis certain qu'ils vont nous répondre parce que on a déjà eu l'occasion d'échanger avec eux sur de nombreux sujets. On a un précédent assez récent qui concerne la TVA. Vous savez que Apple dans le store pratiquait une TVA qui était de 20%, hein, qui est la TVA pratiquée en France. Il y a quelques années, c'était la TVA du Luxembourg, hein, qui était à 12 ou 15%, je ne sais plus. Et vous savez qu'en France, la presse a un taux de TVA réduit à 2,10. Donc, on a eu l'occasion d'échanger un peu avec eux pour essayer de faire appliquer ce montant de TVA réduit, qui est celui de la presse, de 2,10 sur les commissions et sur les montants généré par le store, et on a obtenu gain de cause assez rapidement.
Ça veut dire que les prix ont baissé ou que votre marge a augmenté ?
Ça veut dire que la marge a progressé. Absolument. On pourrait effectivement profiter de ça pour faire baisser un peu le prix qui est demandé au lecteur, mais voilà, dans leur immense majorité, les publications de presse ont choisi de maintenir le prix.
Si on prend un peu de recul, Bertrand Gier, la distribution de la presse via les apps et via l'App Store, les revenus que la presse française en tire, ça représente quoi aujourd'hui dans le modèle économique de la presse en France ?
Ah, c'est difficile de donner un montant. On peut parler du poids et de l'importance que cela prend aujourd'hui et que ça va prendre dans les années qui viennent. Peut-être un petit mot sur le modèle économique de la presse. Alors, il faut distinguer les pure players et puis on va dire la presse traditionnelle. On va parler de la presse traditionnelle que je connais mieux. Celle-ci a fait un effort extrêmement important ces 10 dernières années pour se transformer, pour se numériser, pour transformer les organisations, pour continuer à produire toujours plus de contenu. Et très objectivement, globalement, avec beaucoup de réussite, parce que les audiences sont là, la presse n'a jamais été aussi lue, c'est le paradoxe, hein, on l'a dit en difficulté, elle est en difficulté, et paradoxalement, elle n'a jamais été aussi lue. Pour parler du Figaro, que je connais un peu mieux que les autres, aujourd'hui, on est le premier site d'actualité en France, avec 25 millions quasiment de lecteurs par mois, la marque n'a jamais eu 25 millions de lecteurs par mois. Donc, du point de vue du contenu et de la lecture de nos articles, c'est une réussite immense. Paradoxalement, économiquement, la plupart des sites de presse et des marques de presse sont en grande difficulté parce que cette audience, on n'arrive pas à la monétiser. Voilà, l'ensemble des sites de presse n'arrive pas à la monétiser. La publicité sur le numérique, un gâteau très important, est captée par les big tech, hein, principalement Facebook et Google, qui prennent 85 ou 90% de parts de marché publicitaire. Donc, il n'y a pas de relais publicitaire. Cette audience n'est pas monétisée. Cette audience numérique n'est pas monétisée par la publicité digitale. Sur le papier, quand il reste des activités print, ben, vous savez bien que c'est des activités qui sont en décroissance, plus ou moins forte, qu'il y a de moins en moins de gens qui se rendent au kiosque ou qui s'abonnent pour acheter des publications papier, et que donc le chiffre d'affaires publicitaire également du papier baisse. Donc, on a un paradoxe qui est qu'on est très lu, mais que par contre, on a du mal à monétiser cette audience. Donc, quelle est la voie ou quelle pourrait être l'issue et que font les éditeurs de presse? Ben, ils s'engouffrent le plus possible puisqu'ils n'arrivent pas à faire payer l'annonceur vers le fait de faire payer le lecteur. Donc, c'est vers les offres payantes. On a longtemps été dubitatif, mais le fait est que ça fonctionne bien. Le Monde revendique près de 300 000 abonnés numériques. Le Figaro va passer dans les semaines qui viennent les 200 000 abonnés numériques. Mediapart fonctionne très bien. Voilà, il y a un mouvement d'ensemble qui est qu'il y a de plus en plus de gens s'abonnent pour produire du contenu. Et là, on arrive à notre sujet avec Apple. C'est que les applications en général, et Apple en particulier, ont une grande part de marché dans le recrutement et dans la diffusion de nos offres d'abonnés. Et donc prélèvent sur des modèles économiques qui sont extrêmement fragiles, que ce soit Google ou Apple, 30% de commission, j'allais dire ad vitam. Et ça, c'est vraiment très, très complexe. On considère qu'Apple, là-dessus, est en position dominante et incontournable, non seulement sur le marché de la fourniture d'iPhone en tant qu'appareil, mais également sur le marché de la distribution d'applications sur le système iOS. Et donc, on est dans une situation de dépendance économique absolue vis-à-vis d'Apple pour la distribution de nos contenus sur iPhone, puisque seul le store disponible sur l'iPhone et celui de l'App Store. Donc on n'a pas le choix de faire autrement.
Bon, on se connaît bien, Bertrand, hein. On a travaillé ensemble sur Figaro Live, la nouvelle offre vidéo du Figaro qui est intégrée au Figaro.fr. Vous étiez à la création du Figaro.fr d'ailleurs il y a une douzaine d'années. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience que les GAFA allaient devenir des interlocuteurs incontournables et peut-être même un problème pour les éditeurs de presse ?
Sans du tout se revendiquer visionnaire, assez tôt. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques années, c'est le Time qui avait titré sur le fait, en faisant un jeu de mots avec « enemy » et « friend »,« friend me » pour les GAFA. Et c'est exactement ça, c'est à la fois des partenaires incontournables, c'est des big tech qui font un travail formidable et donc on est ravis de collaborer, de travailler avec eux. Et en même temps, on s'est rendu compte assez vite que dans absolument tous les domaines, ils prennent ils ont une présence et ils prennent une part dans nos activités qui est absolument prépondérante, incontournable. et qui peut assez vite poser problème. Alors, il y a toutes sortes de problèmes, hein. Google, vous connaissez les sujets qu'on a avec Google, qui sont incontournables dans le domaine de la publicité en ligne, à la fois sur les solutions, à la fois sur la commercialisation. Donc, il y a des problèmes, de notre point de vue, de monopole sur l'activité publicitaire. On a des problèmes très importants d'idées droits voisins, puisque nous, on se bat pour faire reconnaître les droits qu'on qualifie de droits voisins sur les contenus, sur l'exploitation de nos contenus. On a fait voter une loi au Parlement européen qui est transposée dans la législation française. Et malgré tout ça, on n'arrive pas à la faire respecter. Et puis également des problèmes sur la façon dont ils peuvent distribuer nos offres et nos solutions. Voilà, qui est typiquement l'exemple que l'on a sur l'App Store.
Tout à l'heure, Bertrand, vous faisiez référence à ces grands éditeurs de journaux américains qui ont embrayé le pas pour contester la commission d'Apple sur l'App Store. Je pense au New York Times, au Washington Post, au Wall Street Journal. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti obligé d'y aller vous aussi, finalement ?
Non, pas du tout. On ne s'est pas senti obligé d'y aller. On s'est dit que c'était le bon moment, qu'il y avait une temporalité, qu'il fallait appuyer. Vous savez, nous, on est des petits, on a des petits moyens comparé à tous ces géants, hein, qui ont des puissances souvent supérieures à celles des États. Et donc, on ne peut pas forcément mener tous les combats, il faut les choisir. On ne peut pas tout faire. Et donc, on savait très bien depuis pas mal de temps que... On trouve que c'est trop c'est 30%, que la situation de position dominante d'Apple, qui par ailleurs nous interdit d'utiliser d'autres solutions, qui nous interdit de proposer nos propres systèmes d'abonnement à l'intérieur des apps, hein. Donc il y a quand même beaucoup d'interdictions de faire ce qu'on appelle des backdoors dans le milieu.
C'est ce qu'Epic Games a fait avec Fortnite.
C'est ce qu'Epic Games a fait avec Fortnite, absolument. Donc, ce sont des interdictions. Donc, on considère vraiment qu'ils sont dans des situations qui sont très dures, qui peuvent être contestées du point de vue du droit de la concurrence. Hein. C'est l'angle que l'on a choisi de défendre avec ce courrier commun.
Et vous prendriez pas le risque de...
Ça peut arriver, surtout qu'en ce moment, on est un peu chaud avec les actions devant l'autorité de la concurrence, hein, puisque malheureusement, on est obligé d'en intenter un certain nombre assez régulièrement. Donc, à la fin, on commence à prendre un petit peu l'habitude. Donc, on a la patte chaude, comme on dit un peu dans le milieu. On a aussi des problèmes sur le partage de la data, puisqu'on a des millions de lecteurs qui nous lisent à travers Apple, et on n'a aucune information sur qui sont ces gens, comment ils nous consomment, ce qu'ils font. Donc, pour répondre à votre question, on ne s'est pas du tout senti obligé d'embrayer. Ça fait longtemps qu'on y pensait, ça fait longtemps qu'on se le disait. On a vu qu'ils sont partis. On a eu la bonne surprise de voir qu'ils prenaient la parole là-dessus, ce qui est assez rare. Et on s'est dit que, ben voilà, il y avait un bon timing et donc qu'il fallait, avec un petit mois de retard, parce que le temps qu'on se mobilise, que la rentrée arrive, etc., on s'était dit que c'était le bon moment pour les appuyer et pour leur dire on est là.
Alors, cette fameuse commission de 30%, elle n'a pas bougé, hein, depuis la création de l'App Store en 2007. On va préciser quand même qu'elle n'est de 30% que pour la première année. Hein. Elle passe à 15% après.
Oui, elle passe à 15% à condition qu'un abonné reste plus de 12 mois déjà. S'il se désabonne ne serait-ce qu'un mois et qu'il revient après, ce qui est son choix et ce qui est formidable et ce qui est une des souplesses qui est prévue par l'appli. Et au passage qu'on a répliqué sur nos propres abonnements, puisqu'on a quand même la possibilité de s'abonner à travers le site du Figaro. Donc malheureusement, pour le moment, ça concerne assez peu de personnes, ceux qui sont dans un 13e mois consécutif.
Mais quand même, ça fait 13 ans que ça fonctionne sur ce principe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous dites, il ne faut pas laisser passer le sujet ? Pourquoi aujourd'hui plus qu'il y a 2 ans, 3 ans ou 5 ans?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a 13 ans, c'était relativement expérimental. Il n'y avait pas d'offres payantes. Hein. Les offres payantes, on les a vraiment développées depuis 3 ou 4 ans, quand on a compris que le modèle publicitaire aujourd'hui sur Internet ne permettrait pas de grandir. Donc ça, on a que vraiment 3 ou 4 ans d'historique. Donc ça fait pas 3 ans qu'on leur demande pas, hein. Ça fait 3 ans qu'on leur demande et qu'on en parle. Bon, on n'a pas de retour. Donc au bout d'un moment, quand on n'a pas de retour, on essaie de faire valoir ses droits autrement. Et puis ce qu'on pense aussi, c'est qu'en ce moment, Objectivement, sans enfoncer de porte ouverte, on se rend quand même bien compte qu'on a un sujet sur la diffusion d'informations dans le monde et dans nos sociétés, qu'il y a de plus en plus de fake news, que les réseaux sociaux font beaucoup de mal sur la divulgation de ces fake news, que les États deviennent des producteurs d'informations, donc avec tout ce que ça comporte dans la manipulation des opinions, etc. Et donc plus que jamais, on a besoin d'une presse indépendante, professionnelle, sérieuse, etc. Cette presse-là, elle est en danger de disparition. C'est pas des vains mots, hein, c'est la réalité, c'est ce que je vis au quotidien. Et donc, on pense que ce sont des valeurs qui sont partagées par Apple, globalement. Le fait de dire, dans nos démocraties, on a besoin de transmettre des idées, on a besoin d'avoir des gens qui soient objectifs, qui font leur travail de journaliste. Vous avez des cartes de presse, vous savez ce que ça représente. Et donc, on pense que ces valeurs sont proches de celles d'Apple. Voilà, et on se dit que à défaut d'abolir la totalité des 30% pour toutes les applications sur le store, peut-être que une petite exception en ce qui concernerait la presse d'information, la défense des idées, etc., qui doit peser une goutte d'eau dans l'océan des revenus d'Apple, nous aiderait fortement et ne les pénaliserait absolument pas.
Quand Tim Cook était venu au Figaro il y a 2 ou 3 ans, vous n'aviez pas eu l'occasion d'évoquer ces sujets-là avec lui?
Alors, on avait eu la chance d'avoir la visite de Tim Cook qui est resté près de 2 heures avec nous. C'est vrai, bravo François de se souvenir de ce point de vue. On avait eu beaucoup de sujets à évoquer avec lui et on avait parlé de la commission d'Apple. Effectivement, à ce moment-là, c'était moins important parce qu'on était moins développé là-dessus. Et je me souviens qu'il avait une réponse. Alors, j'ai pas enregistré à ce moment-là, mais je me souviens qu'il avait une réponse un peu évasive en disant, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on vous apporte beaucoup de clients, on développe des solutions, c'est pratique. Donc, ça les vaut. Voilà. Puis après, on était passé à autre chose. Okay. Mais je serais heureux d'avoir cet échange avec lui à nouveau. Parce que les choses ont changé, hein. Les fake news, la défense des idées, etc. Ça, malheureusement, c'est devenu encore plus important et encore plus fragile aujourd'hui qu'à l'époque de notre rencontre.
Ce serait quoi le juste niveau de commission pour vous, Bertrand?
C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses qu'on aimerait avoir. D'abord, effectivement, une commission réduite. Donc, une commission réduite, c'est ou une commission d'apporteur d'affaires dans le commerce quand on vend, je sais pas, un abonnement. Alors, pardon pour les plus jeunes, mais à une époque, il y avait l'OFUP, hein, qui vendait des.
Oui, oui.
On a tous connu ça, étudiants, qui vendait des journaux. Et donc, on leur payait ou on leur réglait une commission sur les premiers mois. Et puis ensuite, l'éditeur tissait une relation directe avec le lecteur. Donc, une commission de 30% pour le travail formidable que fait Apple, pourquoi pas, mais peut-être sur 2, 3 mois, ou peut-être un fee, une commission fixe, et puis ensuite nous permettre de réduire cette commission. Je pense que ça serait une bonne idée. Si jamais on restait sur une commission permanente, je pense que sans doute une commission d'apporteur d'affaires de 5, 8, 10%, ça serait sans doute plus raisonnable. Objectivement, ça c'est le premier point en ce qui concerne la commission. Le deuxième point, ils peuvent nous aider autrement. D'abord, ils pourraient tout à fait nous permettre au sein de nos applications de proposer nous-mêmes notre propre système d'abonnement. Alors, il serait forcément moins efficace puisque rien n'est plus efficace que l'App Store, c'est ce qui contribue à son succès magnifique. Donc, on serait forcément moins efficace, mais on n'a même pas cette chance-là. On n'a même pas la chance de défendre notre propre système d'abonnement. Et puis, troisième point, peut-être nous communiquer à un moment de la data et de la donnée pour pouvoir rentrer en contact avec nos lecteurs les plus fervents, pour leur proposer d'autres choses, etc. C'est quand même, voilà, c'est pas seulement une histoire de commission, c'est aussi nous permettre de nous adresser à nos lecteurs, nous permettre peut-être de leur proposer des produits supplémentaires ou des.
Parce que vous naviguez à vue et presque à l'aveugle, hein, avec les abonnés qui passent par l'App Store.
Absolument. Il y a une option qui est prévue pour qu'on puisse éventuellement proposer à nos lecteurs qui s'abonneraient à travers l'App Store d'élargir leur abonnement de façon à ce qu'ils puissent aussi se connecter depuis leur Mac ou depuis un laptop classique à travers un code. Et même ça, c'est compliqué. Il faut demander 3 fois l'autorisation. Il y a des fenêtres qui sont, on va dire, très encadrées par Apple qui doivent apparaître, qui font un petit peu peur. Et du coup, c'est un peu, voilà, même ça, même proposer à celui qui s'abonne via l'App Store d'élargir et d'étendre son abonnement pour qu'il puisse en bénéficier sur les autres supports, c'est compliqué. Et pourtant, c'est pour le bien de l'utilisateur.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire, c'est peut-être là-dessus qu'Apple va encore plus freiner par rapport à la sécurisation des données? Parce qu'au final, Apple est quand même, c'est un des chevals de bataille d'Apple, et en disant, bah non, les données, on les donne pas, comme ça, on protège nos abonnés.
Bien sûr, et ça va avec le reste de, avec le mouvement d'ensemble que l'on observe sur les, sur les autres domaines, hein. Vous savez qu'ils sont en train de supprimer ce qu'on appelle l'IDFA, qui est cet identifiant unique de chacun des iPhones qui permet aux gens qui font de la publicité de cibler plus précisément l'utilisateur de l'iPhone, parfois pour son bien, hein, très, très sincèrement, puisqu'une publicité qui est pertinente et ciblée, c'est une publicité qui est moins intrusive. Moi, j'aime le Bourgogne. Si on propose une publicité intéressante pour acheter du bon Bourgogne avec un prix intéressant, je ne la trouverais pas intrusive. Par contre, si on propose, je ne sais pas, pendant 3 semaines un lave-vaisselle, alors que ça fait 3 jours que j'en ai acheté un nouveau, je vais la trouver un peu énervante. Donc, c'est une publicité mieux ciblée, ce n'est pas forcément une publicité qui est plus pénible. Donc, Apple est en train de fermer tout un tas de, effectivement, d'autres passerelles d'informations qui communiquent avec les éditeurs. Et donc, ils se réservent, c'est un peu faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, hein. Donc, je réserve toutes mes infos pour le store. Quand on navigue dans le store, on voit très bien que, toutes nos activités sont tracées. Et par contre, Apple ferme de plus en plus l'accès à ces informations, à tous ceux qui ne sont pas Apple. Même chose avec le ITP programme qui est là pour supprimer les cookies du navigateur Safari. Donc c'est vraiment quand même un mouvement d'ensemble, hein, qui est un peu complexe, qui nous facilite pas la tâche, nous autres éditeurs.
Bon, on a commencé par parler d'Apple et de l'App Store, Bertrand Gier, mais est-ce que la situation est rigoureusement identique avec Google et son store?
Non, oui, alors oui, elle est rigoureusement identique, à quelques exceptions près. Par exemple, Google nous a pas encore répondu favorablement sur cette histoire de TVA, donc ils sont encore plus lents. Donc effectivement, on peut saluer la réactivité d'Apple de ce point de vue-là. Et Google a quand même un certain nombre d'actions, propose des solutions, essaie de travailler avec les éditeurs, notamment avec l'implémentation de leur solution SWG, Subscribe with Google, qui est un peu l'équivalent d'Apple Pay, donc propose de nous accompagner là-dessus. Après, j'allais dire, ce qui change entre les deux, c'est que Google a un poids, en tout cas au sein des applications et au sein des abonnements, qui est très faible par rapport à celui d'Apple. Donc, on se retrouve avec Google dans la situation dans laquelle on était avec Apple il y a 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que ce n'était pas très, très, très important en termes de poids. Mais sinon, on est exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a les 30 points qui sont prélevés sur le store Android, qui est exactement la même commission, mais ça pèse moins pour le moment parce que la plupart d'entre nous, éditeurs, avons plutôt des ventes qui se font à travers l'App Store.
Ouais. Alors, un autre sujet qui concerne Apple, Bertrand Gier, c'est Apple News, le portail d'articles intégré à iOS sur les iPhones, lancé un peu à la one again hein, par Apple, je crois sans trop d'accord sur les droits, énorme source d'audience, mais sans contrepartie pour les éditeurs et sans aucune transparence sur les choix éditoriaux ou l'algorithme utilisé par Apple pour sélectionner tel ou tel article, tel ou tel média. Où est-ce que vous en êtes? Où en sont les éditeurs français et où en est le Figaro, Bertrand Gier?
Bah, pour l'instant, les éditeurs français, ils sont un peu tous à la même enseigne, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si le terme est bénéficier, mais ou subir, plutôt bénéficier du dimensionnement actuel de Google News, c'est-à-dire cette présence des 4 ou 6 titres sur l'écran de gauche quand on swipe vers la gauche.
Et donc, c'est Apple News, en l'occurrence.
C'est Apple News, pardon. Désolé. Effectivement, c'est Apple News. Donc, pour l'instant, on en bénéficie.
En termes d'audience.
En termes d'audience. Donc, ça a mis un peu la pagaille au sein des éditeurs parce que c'est une source de trafic très importante. Un article qui passe, qui est sélectionné une heure, peut engendrer des centaines de milliers de visites. Donc, tout à coup, c'est devenu très important. Il y a eu une espèce de bagarre entre les éditeurs qu'on cherchait à comprendre qui était là, est-ce que c'est 15 sites, 20 sites, comment c'était sélectionné. Donc, chacun juge qu'il est on va dire, discriminés par rapport aux autres. Ça, c'est le, ça, c'est le principe. Et bon, pour l'instant, ça s'arrête là. Ensuite, on voit tous ce qui se passe aux États-Unis, au Royaume-Uni. Hein, l'appli Apple News, ouais. Elle est également au Royaume-Uni. Est-ce qu'elle va être déployée en France?
Là, on parle de l'appli payante, hein, l'appli Apple News Plus.
Voilà, sur l'appli Apple News Plus, qui peut être payante et qui peut être aux États-Unis. Pour l'instant, on a des discussions avec Apple qui nous dit que ça pourrait arriver en France, mais qui ne nous confirme pas vraiment, pas de date, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'échanges là-dessus.
Alors, en juin, le New York Times, hein, qui est sans doute la référence digitale mondiale en termes de presse et de transformation, a choisi de quitter Apple News. Pas assez rentable et très peu, voire pas de maîtrise des contenus repris et de la data. Est-ce que des éditeurs français, est-ce que Le Figaro envisage ou a déjà envisagé de se retirer à son tour d'Apple News, c'est-à-dire dire à Apple, bah, vous faites sans nous?
La situation, elle est aujourd'hui différente entre la France et les États-Unis, puisque nous, j'allais dire, on a dans l'Apple News actuelle, c'est-à-dire le fait simplement d'être référencé, d'avoir des liens qui sont proposés dans l'écran de gauche, j'allais dire, il n'y a pas foncièrement d'inconvénient à y être. C'est simplement une exposition supplémentaire. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on y est, pourquoi on n'y est pas, quel est l'algorithme. On imagine que derrière tout ça, il y a quand même de la curation maintenant, puisqu'on voit des choses qui… Enfin, voilà, on connaît un peu le métier. Donc, c'est parfois frustrant, mais en tout cas, il n'y a pas d'inconvénient majeur, puisque c'est simplement une façon de pousser du trafic vers nos sites. Ouais. Aux États-Unis, c'est là on parle de l'appli, avec l'appli payante, c'est-à-dire de proposer un écosystème fermé, une fois de plus, au sein duquel, avec une seule offre payante, plusieurs quotidiens seraient référencés. Pour l'instant, on n'en est pas là en France, donc on n'a pas eu encore à se prononcer. Maintenant, d'une manière générale, on est assez méfiant avec ce genre de solution, parce que on n'a pas envie de se faire intermédier, on n'a pas envie que un opérateur quel qu'il soit puisse prendre un peu la main et avec une seule offre proposer un mix de différents contenus. Donc on n'a pas eu à se positionner, on est assez méfiant et on n'est pas très étonné, pour tout dire, que des journaux qui on va dire soient suffisamment forts pour se permettre de ne pas y être choisissent de ne pas y être.
Ouais. Justement, quand vous entendez qu'aux États-Unis, Apple intercepte une partie du trafic des éditeurs pour le rediriger vers son application payante Apple News Plus, vous vous dites quoi? Il faut faire attention?
Évidemment.
On a raison d'être méfiant.
Oui, bien entendu. Le problème, c'est que on se bat, on n'est pas du tout, c'est même pas du David et Goliath. C'est que la situation qu'on subit un peu avec l'ensemble de ces grandes compagnies tech, c'est qu'elles sont d'une telle puissance par rapport à nous, qui sommes assez faibles parce qu'en difficulté économique, parce qu'en période de transition, etc. Et que du coup, ça demande du temps, ça demande de la force. Parfois, on n'est pas suffisamment fort pour refuser un petit billet, même si on sait que intellectuellement, c'est pas une position qui serait qui nous serait structurellement favorable. Donc parfois il faut être assez fort pour pouvoir refuser d'être embarqué dans certaines solutions dont on sait qu'elles peuvent être toxiques à terme, mais à court terme parfois d'autres intérêts prévalent. Donc
c'est déjà arrivé?
Sans doute, sûrement. Alors après, oui, sans doute, peut-être, parfois. Alors on essaie de pas trop le faire au sein du Figaro, mais sans doute, peut-être que parfois on prend des décisions dont on sait qu'elles sont pas forcément bonnes, mais parce qu'à court terme, elles vont nous permettre de générer ou de l'audience ou des revenus. Bien sûr.
Alors, en ce qui concerne les podcasts, Bertrangier, de plus en plus de médias cherchent à exister en dehors d'Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. On l'a vu très récemment avec le lancement de la plateforme Audio Now, qui est l'alliance du groupe M6 et Prisma. Où est-ce que vous en êtes au Figaro sur ce sujet des podcasts?
D'abord, on trouve que c'est très intéressant. On aime le son, on aime la voix. On pense que, comme beaucoup, on voit bien qu'il y a un usage qui se... qui se développe et que c'est vraiment une mode de consommation de contenu qu'on trouve extrêmement pertinent, qui s'installe un peu dans une certaine, dans un certain temps long, ce qui nous va bien puisque nous, on propose, en tout cas pour une partie de nos offres, de rentrer dans le détail, de rentrer dans l'analyse, et le podcast se prête bien à ça. Donc on a un point de vue qui est très positif sur les podcasts en général. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, à mon goût, aujourd'hui, à ce jour, nous ne sommes pas assez déployés dans l'univers des podcasts. Hein. On en a fait régulièrement, enfin, on en fait même quotidiennement, mais on n'a pas investi pleinement ce nouveau format et on souhaite le faire et on va essayer d'aller un petit peu plus dans l'année 2021. On a beaucoup fait dans d'autres domaines, notamment dans la vidéo. On en a parlé tout à l'heure et c'est vrai que c'est parfois compliqué de tout faire. Et une fois de plus, donc ça, c'est par rapport au Figaro et au podcast, mais on en fait. Et une fois de plus, on voit bien qu'il va y avoir un problème à travers la distribution et que certains vont être là pour se positionner et essayer de préempter ces carrefours d'audience qu'il y aura autour du podcast et pourquoi pas également une partie de la valeur.
Économiquement, ça commence à avoir un sens, les podcasts, notamment pour les annonceurs?
Alors, il y a plusieurs types de monétisation quand on est un éditeur de contenu d'information. D'abord, il y a une monétisation un peu immatérielle et irrationnelle se fait à travers l'audience et à travers les contenus de la marque et l'image de la marque qu'on diffuse. Hein, quand on écoute un podcast intéressant du Figaro, évidemment, s'il est intéressant, c'est une rémunération immatérielle, on va diffuser un de nos contenus, pour nous c'est important, et on va faire savoir qu'il y a une forme de modernité, qu'on est capable de faire plusieurs choses, etc. Ça, c'est une première rémunération, même si elle ne se traduit pas avec la monnaie sonnante et trébuchante. La deuxième, c'est celle qu'on a privilégiée jusqu'ici, ce sont de trouver, c'est des podcasts qu'on arrive à produire avec un partenaire. Dès le début, on a fait toute une série de podcasts sur la finance, sur l'économie responsable, etc., en partenariat avec UBS, que je tiens à souligner parce que on a eu une totale liberté pour traiter ces sujets sur une dizaine de podcasts. Ils nous ont accompagnés, nous ont fait confiance, ça s'est très bien passé. C'est un financement important. On a fait ça aussi sur des podcasts de Madame Figaro, sur le bien-être, avec Yves Saint-Laurent, etc. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un partenariat où la marque et Madame Figaro présentent. Donc ça, pour nous, c'est ce qu'on trouve le plus vertueux parce que financièrement, c'est ce qui nous donne la plus de visibilité, c'est ce qui nous permet de travailler et d'être le plus de travailler le plus confortablement et donc d'avoir les contenus de prendre le temps d'assurer la meilleure production, la meilleure qualité de contenu. C'est ce qui est très important. Puis la troisième source de revenus, j'allais dire c'est le pré-roll classique, c'est comme quand on ouvre une vidéo sur YouTube et dans ce cas-là, on peut tomber sur une pub quelle qu'elle soit. C'est un peu moins quali et de notre point de vue, c'est un peu plus aléatoire puisque celle-ci, elle se fait en aval de la production du contenu. Donc, c'est une monétisation post-production et qui est plus aléatoire, mais qui commence à démarrer. Alors, c'est des petits montants, mais c'est des montants qui progressent.
Ouais. Et alors, en termes de distribution, puisque ça va être l'enjeu aussi, est-ce que vous passez par les plateformes des géants de la tech ou est-ce que vous regardez une distribution sur vos propres plateformes?
Bah, pour l'instant, dans la petite expérience que l'on a, puisqu'on ne se considère pas du tout comme une grande entreprise de podcast avec beaucoup d'expérience, etc. Donc, on produit des podcasts quotidiens et puis on a dû produire peut-être une cinquantaine ou une soixantaine d'épisodes un peu costauds. Les meilleurs scores de diffusion, ça a été sur nos propres plateformes. Mais dans ces cas-là, c'était un peu plus distribué comme du streaming et pas vraiment comme du podcast. Donc, il faut qu'on progresse. On parlait d'application tout à l'heure avec Apple. Au sein de notre application, il faut absolument qu'on soit capable de proposer un vrai module d'abonnement et d'écoute de podcasts et pas simplement un streaming, etc. Donc, on va privilégier nos propres développements, notre propre distribution, parce que les gens qui nous écoutent, ils sont d'abord chez nous. Et dans ce cas-là, il faut qu'on travaille pour améliorer nos offres et nos contenus. Et puis ensuite, on ira là où est l'audience et où est l'usage. Hein. Donc, s'il faut proposer sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes, on y est déjà d'ailleurs, on sera là aussi. Mais on privilégie ça, on privilégie la distribution chez nous, évidemment.
Merci beaucoup Bertrand Gier d'avoir participé à cet épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast.
Merci d'être venu me voir pour parler de tout ça, c'est très intéressant.
On vous souhaite beaucoup de succès, on vous souhaite déjà une réponse de Tim Cook et puis des échanges fructueux.
Mais je suis sûr qu'il nous écoute, Benjamin.
Oh mais j'en suis sûr aussi, il est abonné il paraît. Bon, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette bataille avec Apple, Google et les autres. À bientôt Bertrand.
À très bientôt.
Dans un instant, le ou plutôt les tests de la semaine. Deux tests et demi au programme cette semaine, ou plutôt deux tests, WatchOS 7 et tvOS 14, et une prise en main, l'Apple Watch Series 6. On va commencer par WatchOS 7 avec toi, François. On va aborder les principaux points, les principales nouveautés. On commence par la configuration familiale.
Oui, alors c'est une des nouveautés qui a le plus fait parler, et c'est sans doute la grosse nouveauté de WatchOS. Ça va être la possibilité, en fait, à partir d'un seul iPhone, de pouvoir paramétrer plusieurs Apple Watch. En fait, l'idée de base, c'est de paramétrer des Apple Watch pour vos enfants, par exemple, ou pour des personnes âgées. L'intérêt, c'est qu'avec directement avec l'iPhone du gérant, on va dire, de la famille, vous pouvez paramétrer plusieurs Apple Watch, leur adjoindre aussi un forfait téléphonique. Pour l'instant, en France, il n'y a qu'un opérateur qui est compatible, c'est l'opérateur qui s'appelle Truphone. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir, pour 79 euros par an, c'est 7,90€ je crois par mois, sinon donc vous avez une petite remise en prenant l'abonnement annuel, vous allez pouvoir avoir appel et SMS illimité sur autant de watch que vous voulez. Alors évidemment c'est un forfait, une watch, hein, mais si vous avez 5 watch, vous pouvez souscrire à 5 abonnements. Et je sais que c'est une nouvelle qui avait un peu tapé dans l'œil d'Eli, et je crois même que ça devait être son coup de cœur de la semaine, mais je lui ai grillé la priorité, donc je vais le laisser en parler de cette belle fonctionnalité.
Et oui, c'est une fonctionnalité que je trouvais très intéressante. Évidemment, pour Apple, ça va permettre de vendre beaucoup plus de watch, mais je vais vous donner deux exemples précis. Très souvent, on a des familles avec des enfants qui sont un peu trop jeunes pour avoir un smartphone, de peur de se le faire piquer au collège, mais qui commencent à être mobiles. Et donc, les parents s'inquiètent, souvent à juste titre, pour savoir où sont leurs enfants. Eh bien, avec une Apple Watch gérée par la famille, il suffit de coller ça au poignet des bambins et on peut savoir où ils sont avec le GPS. Alors, ce n'est pas de l'espionnage, hein, c'est plus de l'inquiétude pour des parents. Hein. Et on peut les appeler. Et même s'ils refusent de répondre, ce qui arrive souvent avec les enfants quand ils veulent pas, on peut déclencher la fonction walkie-talkie et dire « rappelle à la maison, s'il te plaît ». Donc ça, c'est un cas très précis. Le deuxième, qui est encore plus intéressant, et c'est pour ça que depuis que l'Apple Watch, depuis la série 4, j'insiste sur le fait qu'elle devrait être remboursée par la Sécurité sociale, et je le répète, dans le cas d'une personne âgée qui peut se perdre et ne pas savoir où elle se trouve, et des fois, moi ça m'est arrivé personnellement, hein, donc on peut passer des heures à s'inquiéter, à chercher partout, etc. Avec une Apple Watch donc pilotée au poignet, on peut la retrouver avec la fonction GPS ou on peut l'appeler pour lui demander si elle va bien. En plus, toutes ces montres, y compris la SE, ont la détection de chute. Donc, en cas d'accident, on le sait. Donc, pouvoir contrôler des montres par rapport soit à des jeunes enfants qui ne sauraient pas le faire, soit par rapport à des personnes âgées qui ne sauraient pas le faire non plus, moi, je trouve ça exceptionnel.
Ouais, je suis tout à fait de ton avis, Ellie, et c'est assez prodigieux quand on y pense.
Moi, je vois deux limites à ça. Je vois deux limites en dehors de l'aspect espionnage qui peut toujours être un peu embêtant. La première limite, c'est qu'évidemment, il faut penser à recharger l'Apple Watch. Je pense en particulier à des personnes âgées qui pourraient être un peu désorientées. Ce serait vraiment un réflexe à leur imposer. Et puis, la deuxième limite, c'est dispo qu'à partir de la Watch série 4. C'est vrai que c'est une Apple Watch qui reste fonctionnelle et qui reste très bonne. Et ça aurait été bien que ce soit compatible, par exemple, avec la série 3. Ça aurait permis de se dire, voilà, j'ai une vieille série 3. C'est un moyen de la refiler, entre guillemets, à quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment une fonctionnalité qui, à mon avis, va énormément se développer. L'autre intérêt aussi, c'est qu'avec le mode enfant, on peut désactiver l'Apple Watch pendant l'école. En fait, ça revient à faire du contrôle parental. C'est-à-dire que quand le bambin, il est arrivé à l'école, et ben, on dit, le forfait data, c'est coupé, tu fais rien, quoi. Et il y a un vrai moyen de contrôler. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce que je n'ai qu'une Apple Watch et c'est la mienne. Donc du coup, je me suis pas mis en mode enfant. Mais à mon avis, je pense vraiment que ça peut intéresser pas mal de familles. Et surtout sur l'aspect où on donne pas directement un smartphone à l'enfant. C'est l'Apple Watch et un moyen, s'il y a une urgence, de l'appeler. Mais en dehors de ça, peu ou pas de navigation Internet, ça peut les démotiver, quoi. ouais. Je pense.
Bon, voilà pour la configuration familiale. C'est nouveau, c'est dans WatchOS 7 et c'est la première nouveauté dont on voulait vous parler. Maintenant, on parle des nouveaux cadrans, François.
Et oui, on avait eu l'occasion d'échanger là-dessus pendant la keynote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc il y a plein de nouveaux cadrans qui sont proposés, dont certains avec des artistes qui ont réalisé des cadrans plutôt sympas même, j'ai envie de dire. Il y a aussi des nouvelles complications. Alors moi, j'ai toujours trouvé que les complications portaient bien leur nom.
Ah oui, quel drôle de nom, franchement.
Mais qu'est-ce qu'une complication ? Eh ben concrètement, c'est le fait de dire, bah tiens, je vais mettre un calendrier, je vais mettre la météo, etc. Vous pouvez personnaliser énormément votre cadran jusqu'à le rendre complètement imbuvable.
Ça doit vouloir dire pas la même chose en anglais, non ?
C'est complication en anglais, non ?
Non, mais ouais. pas du tout. Je vous le précise, les garçons, c'est une petite précision que j'ai appris justement d'un ami qui est horloger. Dans une montre traditionnelle, pas du tout connectée, ça s'appelle des complications aussi.
Ah oui, d'accord.
Donc ça vient de l'horlogerie.
Apple, d'accord.
Oui, oui.
Ok. Donc du coup, gros mea culpa.
Okay, non, bah, ce sont des complications pour l'utilisateur. Hein.
D'accord. C'est la faute aux horlogers, alors.
C'est ça.
C'est ça. Bon, c'est les horlogers suisses, du coup. Le côté sympa, c'est qu'on va pouvoir en plus se partager ces cadrans. Donc on pourrait peut-être organiser entre l'équipe d'iWeek un concours du cadran le plus moche. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je suis pour.
Est-ce qu'on peut designer ces cadrans ? Parce que j'ai toujours pas compris si on avait la liberté de le faire.
Alors, tu peux parader, tu peux frauder, mais auquel cas tu mets qu'une photo, quoi.
Oui. Est-ce que mais tu peux mettre le logo d'iWeek en fond de
en photo, oui, bien sûr.
Ah bah oui.
Oui,
ah bah oui, évidemment. Tu peux même mettre ton Memoji si tu veux maintenant. Parce que l'application Memoji est directement intégrée à l'Apple Watch.
Bah voilà.
Donc tu peux envoyer des Memoji. C'est super, hein.
Super.
Le troisième, on va dire, gros point, c'est le suivi d'activité. Alors le suivi d'activité, il y a pas mal de petites nouveautés, il y a des nouveaux entraînements, donc j'ai une bonne nouvelle, Benjamin, maintenant quand tu feras tes séances de gainage quotidien, tu pourras directement l'intégrer à l'Apple Watch, il y a l'application gainage.
Moi je marche en ce moment beaucoup, mais le gainage, pas encore trop.
Bah mets-toi au gainage, tu verras, ça te fera du bien. Ellie, la danse, maintenant tu pourras rajouter tes cours de danse.
Super.
Voilà. Il y a quelques petites nouveautés comme ça, comme à chaque fois ils en rajoutent en fait. Il y a pas mal des nouveaux entraînements aussi qui prennent aussi leur sens avec la nouvelle Apple Watch qui a l'altimètre intégré, je vous le rappelle, un vrai altimètre qui prend l'altitude en temps réel, et ça c'est un gros plus. Il y a des nouveautés aussi, alors ça c'est aussi par rapport aux enfants, je pense à la fonctionnalité des enfants et aussi des plus âgés. Notre ami Audrey Coulon en a fait une vidéo d'ailleurs. Donc jusqu'à maintenant, on avait le droit de modifier uniquement ses calories à consommer par jour. Donc c'est-à-dire, je vérifie sur mon Apple Watch pour pas dire de bêtises, le cercle rouge. Mais le cercle vert qui est les 30 minutes d'exercice quotidien, c'était imposé. Et aussi le cercle, le fait de se lever au minimum une minute pendant 12 heures dans la journée. Ces deux autres cercles-là étaient bloqués à 12 et à 30. Et maintenant, on a aussi moyen de les modifier. Donc ça, je pense que c'est pour les enfants et aussi pour les plus âgés, pour éviter de leur imposer 30 minutes d'exercice. Je pense en particulier aux personnes qui pourraient avoir des petites difficultés motrices. Voilà, le fait de se dire, bah tiens, plutôt que de mettre 30 minutes d'exercice, on va leur en mettre 10, et ça pourra quand même peut-être les motiver à bouger. Alors que
Tu veux dire que je vais enfin pouvoir avoir des cercles verts remplis ? Ma grosse frustration depuis que j'ai une Apple Watch.
Je ne dirais pas jusqu'à dire ça parce que ce serait mal, mais oui, effectivement, tu vas pouvoir le bouger. Donc n'hésitez pas, je vous renvoie soit sur le site d'Apple ou soit sur les vidéos d'Audrey que vous trouvez sur YouTube. Vous êtes sans doute déjà abonné à la chaîne. Et puis l'autre petite nouveauté aussi, là c'est plus lié à l'application Activité sur iPhone. L'interface a été revue, on n'a plus que deux onglets. Il y a une présentation synthétisée de la semaine qui est montrée un peu différemment. Moi personnellement, je la trouve moins intuitive. Mais je pense que c'est aussi des habitudes à avoir, et on avait pris des habitudes avec l'ancienne application, et je pense qu'on en aura aussi avec la nouvelle.
Ok François, alors on va passer à une fonction qui est très liée au Covid quand même.
Ouais, et je ne m'en lave pas les mains de cette fonctionnalité. C'est assez marrant en fait, alors on en avait aussi beaucoup parlé quand ça a été présenté, donc en fait il y a l'Apple Watch détecte quand vous vous lavez les mains. Le problème, c'est que c'est pas que quand vous vous lavez les mains. Quand vous faites la vaisselle, par exemple, elle va le détecter. L'autre jour, j'étais à étendre le linge et elle a détecté que j'étais en train de me laver les mains. Donc, on sent que c'est un petit peu aléatoire quand même. Mais en fait, l'idée, c'est de vous montrer que pour se laver les mains de manière efficace et bien tuer toutes les bactéries, il faut au minimum se laver les mains pendant 20 secondes. Et donc, quand vous allez commencer à vous laver les mains, l'Apple Watch, en fait, va détecter ça et va vous inciter à continuer à vous laver les mains. Et à la fin, au bout de 20 secondes, la montre vibre. Vous avez le droit à un joli pouce en l'air avec des petites bulles vous disant « Super, tu t'es bien lavé les mains. » Et voilà. C'est un peu gadget, malgré tout, mais c'est aussi une sensibilisation et c'est une manière de se rendre compte que je pense que, voilà, moi, personnellement, je me lave pas les mains pendant 20 secondes. Ça m'a incité à me dire « Faut quand même faire attention, quoi. »
Faut insister,
ouais, faut insister.
Et moi, je le fais depuis que j'ai l'appli. Effectivement, j'observe les 20 secondes et du coup, c'est bien.
T'as l'impression de te laver les mains plus longtemps ?
Oui.
Oui. Bon, bah, écoute, si c'est mieux, tant mieux. On peut pas dire autre chose.
C'est clair.
Bon, cinquième point. T'as autre chose à dire sur le...
Non, j'allais dire le cinquième point, ouais, Siri, donc il y a des fonctionnalités qu'on a déjà évoquées la semaine dernière sur iOS, comme par exemple la traduction qui marche directement sur l'Apple Watch. Il y a l'arrivée de la dictée sur Siri. Siri, on a vraiment moyen de beaucoup plus lui demander de choses. Il y a le nouveau logo qu'on retrouve aussi sur l'Apple Watch avec le nouveau format qu'on a en bas à droite ou en bas au milieu sur l'iPad. Moi, je le trouve plutôt... L'animation est plutôt réussie. Par contre, contrairement à l'iPhone et à l'iPad, Siri prend tout l'écran, mais sur une Apple Watch, ça paraît logique. Et on a aussi l'apparition de la petite pastille. Quand vous appelez Siri, vous avez la petite pastille avec le micro jaune en haut à droite qui indique bien qu'il y a une écoute qui a lieu sur le même principe que les petites diodes qu'on retrouve sur iOS quand la caméra fonctionne ou quand le micro fonctionne. Dès que vous êtes, entre guillemets, je vais pas dire observé parce que c'est pas le terme, mais c'est pour vous indiquer quand vos enregistrements sont activés. Et l'autre petite fonctionnalité qui est plutôt sympa aussi, c'est l'arrivée des raccourcis Siri directement sur la Watch. Donc vous avez l'application raccourci qui existait sur l'iPad et sur l'iPhone, vous l'avez sur la Watch. Et donc si vous vous créez des raccourcis sur l'iPhone, vous les retrouvez sur l'Apple Watch, ce qui est plutôt sympa. On pouvait les activer en utilisant Siri, maintenant on a directement l'application intégrée.
Les Memojis, François.
Et ouais, ça c'est mon fourre-tout de fin. Les Memojis sur la Watch. Et oui, maintenant on peut avoir les Memojis sur la Watch, et ça c'est... une révolution.
Ouais.
Et la dernière, la grosse nouveauté que je ne vais pas pouvoir évoquer pour une simple et bonne raison, c'est que je ne l'ai pas testé, mais je crois que notre cher ami Eli l'a testé, et ce que beaucoup de gens attendaient, c'est une application sommeil directement intégrée à l'Apple Watch.
Oui, c'est vrai, et moi je l'utilise depuis que j'ai fait la mise à jour, et je m'en sers quotidiennement. Alors j'ai fixé, on peut choisir les jours de la semaine, hein, donc pour les jours de la semaine, j'ai fixé à quelle heure je dois me lever et normalement combien d'heures il me conseille pour un sommeil efficace. On peut lui dire évidemment très peu, mais il conseille 8 heures, donc moi j'en fais plutôt 7, mais du coup il prépare ça très bien parce qu'il y a la préparation au sommeil, c'est-à-dire que une heure avant, il vous met une petite musique en disant bah, ça va être le moment d'arrêter un peu de bosser ou de penser à aller se coucher. Il va baisser un peu la luminosité de l'iPhone, si vous avez l'iPhone à côté. Et il va vous faire un petit rappel. Et puis après, en fait, on s'endort et il verrouille la watch et il verrouille l'iPhone de façon à ne pas pouvoir les démarrer accidentellement pendant qu'on dort. Si on porte la montre au poignet, elle fait un suivi du sommeil très détaillé, avec le sommeil profond, les moments où on se réveille, même si on s'en rend pas compte, et il fait une analyse du sommeil, ce qui est plutôt très très bien. Et puis au moment du réveil, il choisit pas l'heure pile, il peut vous réveiller un tout petit peu avant ou un tout petit peu après, en fonction de votre état de sommeil, et ça c'est plutôt chouette. Et ça vous réveille de façon très agréable avec un très joli bonjour sur l'iPhone en vous annonçant la météo. Donc, et je trouve ça vraiment sympa. Et évidemment, le week-end, non. Hein. Mais quand même, vous pouvez dormir et il peut surveiller votre sommeil si vous le voulez pendant le week-end sans vous réveiller.
Bon, sur ce WatchOS 7, Jean-Christophe, tu avais quelque chose à nous dire ou à ajouter ?
Alors il y a une chose que j'aime beaucoup, un peu paradoxale, c'est que Siri peut être silencieux et arrête de répondre. Et moi je me sers énormément de Siri et elle répond maintenant sur le cadran si vous avez activé le mode silencieux et franchement ça change la vie. En revanche, moins emballé, je le disais un peu lors du lancement, moins emballé sur les fonctions de suivi de sommeil, mais c'est sans doute parce que j'ai des journées trop longues. Typiquement, il faut garder il faut que la watch ait suffisamment de batterie pour que ça fonctionne. Et en une semaine d'utilisation, pour moi, ça n'a jamais été le cas. Donc, je vois pas bien l'intérêt.
Alors après iOS et iPadOS 14 et avant macOS Big Sur courant octobre, il nous restait un nouvel OS à décortiquer. c'est tvOS 14 et c'est toi qui t'y colle, Ellie.
Mais oui, parce qu'en plus, comme vous le savez, l'Apple TV, c'est un de mes produits préférés chez Apple.
Ben oui.
Donc, j'attendais avec grande impatience cette arrivée de tvOS 14 pour voir en particulier s'il réglait ces problèmes qui étaient apparus déjà depuis tvOS 12, qui étaient un certain nombre de restrictions à la possibilité d'utiliser des apps tierces et de pouvoir utiliser du son haut de gamme. TVOS 14, il y a quand même des choses nouvelles et il y a des choses qui n'ont toujours pas bougé. On va commencer par les choses nouvelles pour être positif. Alors, on attendait et on espérait, on en avait parlé d'ailleurs dans une émission précédente, que l'application Maison fasse son apparition dans TVOS et qu'on puisse contrôler les appareils. Eh bien, la réponse est oui, non. C'est-à-dire que il y a une utilisation très réduite de l'application Home à travers le centre de contrôle. Donc, il faut aller dans le centre de contrôle de l'Apple Watch. Vous ne trouverez pas l'icône sur votre Apple TV. Et quand vous êtes dans ce centre de contrôle, si vous avez une caméra compatible HomeKit, vous verrez le flux de la caméra. De la même façon, pour certaines caméras connectées, ou portier plutôt vidéo connecté, si quelqu'un sonne à votre porte, il y aura un flux d'images qui apparaîtra dans votre télé en image dans l'image, donc pour ne pas couper votre série ou film préféré, mais vous verrez que quelqu'un est à la porte. Donc ça, c'est assez sympa. Mais pour le reste, on peut pas piloter ses lumières ou ses chauffages ou des choses comme ça. Par contre, on peut lancer des actions. Donc on peut lancer l'équivalent d'un raccourci qui va déclencher des choses dans HomeKit, mais que vous ne pilotez pas vraiment, vous les utilisez à travers Siri. Donc c'est une façon un peu bizarroïde d'utiliser HomeKit et d'utiliser sans l'utiliser l'application Home. Mais bon, espérons que ça sera meilleur, mais c'est une entrée d'HomeKit dans ce qui est aujourd'hui le pont de communication HomeKit, puisque l'Apple TV est le pont qui vous permet d'utiliser HomeKit depuis l'extérieur, mais
ben oui,
avec pour l'instant un feedback très réduit. Donc ça c'est la première fonction. Après, puisqu'on en a parlé, il y a une fonction PIP, Picture in Picture, hein, donc qui permet effectivement, quand vous avez une vidéo, ben vous pouvez cliquer sur une icône, vous avez l'habitude de faire ça sur un Mac, et la vidéo va se réduire, ce qui vous permet de faire autre chose. Donc consulter quelque chose sur votre télé ou éventuellement regarder une deuxième vidéo ou mettre en attente, j'en sais rien, si vous êtes en attente du journal télévisé, vous pouvez le mettre dans une petite fenêtre, continuer à regarder votre série préférée, puis quand vous voyez que les infos démarrent, bah, vous switchez. Et quand je dis ça, c'est oui, mais, parce que les applis Apple savent passer en PIP, mais les applis tierces, il faut qu'elles le fassent. Donc, pour l'instant, on attend de voir si des applis comme MyCanal, ou qui savent le faire hein, sur Mac depuis longtemps, ou Molotov, pour ne citer qu'elles, mais il y en aura certainement plein d'autres, vont supporter le PIP, parce que ce n'est pas parce qu'Apple l'a fait que les apps tierces le font. Donc, c'est là, mais ce n'est pas encore tout à fait là.
Ouais, il va falloir des mises à jour.
Il va falloir des mises à jour d'apps, oui. Ce qui était promis et qui a été réalisé, c'est que les AirPods, maintenant, basculent sans problème vers l'Apple TV si vous les avez jumelés sur votre Apple TV. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je me suis rendu compte que ça marchait bien parce que je voulais tester la spatialisation dont on a parlé du son. Et pour écouter ça, ben, rien de mieux que de regarder quelque chose sur Apple TV+. Une des nouvelles séries comme Ted Lasso, par exemple, ou comme Téhéran, dont on a parlé, et qui, ça y est, maintenant, les premiers épisodes sont là et tiennent leurs promesses. Et donc, des fois, évidemment, on peut écouter ça sur notre home cinéma préféré en faisant trembler la maison, c'est génial. et des fois, discrètement, le soir, on peut mettre ses AirPods Pro.
Ça, c'est vachement bien.
Et c'est génial.
Ah ouais.
C'est vraiment bien.
Ça, c'est top.
Oui, et franchement, pour ceux qui s'intéressent à la fonction spatialisation, on va encore refaire de la pub pour un de nos amis qu'on aime beaucoup ici dans cette émission, qui est Pépé Garcia. Il a fait un test des AirPods Pro En ce qui concerne la spatialisation, vous trouvez ça sur sa chaîne YouTube, et il a fait une présentation remarquable parce que la spatialisation, ça existe. Il y a deux spatialisations différentes qui sont connues depuis longtemps. Et bien Apple a sa méthode, et moi je ne le savais pas tant que je n'avais pas vu cette vidéo. Et lui qui est généralement pas forcément un super pro Apple comme nous, hein, donc des fois il dit du mal, des fois il dit du bien, ben là il a trouvé que c'était extraordinaire et il explique pourquoi, donc je vous conseille de regarder sa vidéo.
Donc tvOS 14 toujours, Eli, avec toi. Maintenant on va parler du multi-compte utilisateur.
Et oui. Apple s'est aperçu enfin que plusieurs personnes pouvaient utiliser un même appareil. Puisque tant qu'on avait des iPhones ou des iPads, la réponse d'Apple par rapport aux multi-utilisateurs était de dire « Vous voulez deux personnes, vous avez qu'à acheter deux iPads. » Ce qui était certes intéressant, mais financièrement, pas forcément facile. Comme on ne peut pas avoir forcément dans toutes les familles plusieurs télés ou une télé par utilisateur avec un Apple TV connecté dessus, et que souvent les enfants jouent, des fois les adultes aussi, ben Apple permet maintenant d'avoir plusieurs comptes, ce qui vous permet en particulier, quand vous basculez d'un compte à l'autre, et c'est très sympa parce que c'est pareil, c'est dans le centre de contrôle, il y a des icônes, vous cliquez sur l'icône de la personne, et du coup vous basculez sur sa session, il peut y avoir une protection bien sûr si vous le voulez, mais chacun peut enregistrer le niveau de progression de son jeu préféré et ne pas détruire le score de son camarade à côté. Donc il se rappelle très bien, et même dans certains cas, évidemment, dans la session, vous avez vos préférences Netflix ou Apple TV+, ce qui fait que quand vous continuez à regarder votre série, vous continuez à l'endroit où vous étiez, donc pas rien à l'endroit où votre épouse s'est arrêtée. Des fois, c'est pas c'est la ça. Même.
Exactement.
Voilà. Bon, donc c'est
puis,
bien.
Et puis du nouveau, du côté du 4K, de la 4K.
Mais oui, parce qu'avec une Apple TV 4K, on ne le savait pas, mais les vidéos YouTube n'étaient pas en 4K. Je sais, c'est une honte, mais ça y est, maintenant une vidéo 4K est en 4K. C'est quand même la moindre des choses. Et puis AirPlay, quand on streamait du contenu depuis son iPhone, ben en fait, il n'était pas en 4K, sauf qu'on ne le savait pas. Donc maintenant, soyez rassurés, vos vidéos 4K sont en 4K.
Ouais, alors concernant AirPlay, je sais pas si c'est lié à mon Wi-Fi, mais honnêtement, j'aimerais déjà que l'image et le son soient complètement fluides quand je stream en AirPlay, ce qui n'est
c'est
pas
ton
le cas.
Wi-Fi.
C'est ton Wi-Fi.
C'est ton Wi-Fi.
C'est mon Wi-Fi. Hein. Merci Free. Merci la Freebox Delta. Voilà.
Alors, il faut faire la mise à jour et peut-être mettre un petit répéteur. Moi, je l'ai fait parce que j'ai une Delta et j'ai un Freebox répéteur, le petit répéteur Wi-Fi qui est gratuit maintenant.
Elle est à 3 mètres, elle est à 2 mètres de moi, la Freebox.
Alors, il y a un petit souci qu'il faut voir. Hein, parce moi, j'ai essayé et en fait, vous savez qu'à un moment donné, on n'avait pas forcément Disney Plus en France et qu'il fallait avoir un compte américain pour pouvoir regarder certaines séries. Même maintenant, hein, par exemple, si vous voulez regarder le dernier Star Wars, il n'est pas officiellement en France, mais il est sur le compte américain. Et quand on se connecte, il faut se connecter avec un VPN qui n'existe pas sur l'Apple TV. C'est le seul boîtier multimédia du marché qui empêche l'installation d'un VPN, contrairement à tous les produits Android à 49€. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, comment est-ce que vous faites pour regarder quelque chose qui vient de Disney+, en Dolby Atmos et en 4K? Eh bien, vous regardez à partir de votre iPhone. Et donc, je peux vous garantir que je stream du 4K en Dolby Vision et en Dolby Atmos depuis mon iPhone sur mon Apple TV en 4K avec une qualité qui tue et un son qui tue en Wi-Fi. Hein.
Bon, donc, j'ai vraiment un problème de Wi-Fi.
Faudra qu'on fasse des petits tests, on regardera ça.
Bon, alors ce nouveau système pour l'Apple TV, Jean-Christophe, tu l'as installé toi aussi, qu'est-ce que tu en penses?
Il s'est installé tout seul parce que l'Apple TV se met à jour automatiquement, et je le signale parce que justement j'ai été surpris de découvrir une nouvelle interface en allumant ma télé. C'est assez amusant.
Comme
on
moi.
Fait le procès. Voilà, c'est assez amusant. On fait le procès depuis des années et on a raison à Apple de pas supporter le multi-utilisateur sur l'iPad. Elle le fait aujourd'hui sur l'Apple TV, ce qui est pas mal. A priori, une Apple TV, c'est un objet familial. En revanche, c'est très moche. Moi, ça me perturbe beaucoup. En plus, je l'utilise pas parce qu'on a un seul utilisateur pour la famille. Je trouve que le JCVigne est connecté en haut à droite quand on allume sa télé, c'est laid. Et pour un pro de l'interface comme Apple, ça me chagrine. Le point positif, en revanche, c'est qu'on peut enfin présélectionner des enceintes et elles restent sélectionnées. Par exemple, moi, j'utilise des HomePod en stéréo pour l'Apple TV branché à mon vidéoprojecteur et c'est très agréable de ne pas avoir à commencer une séance de visionnage par changer la sortie. Bah, on se demande pourquoi ça a pris tant de temps pour arriver, mais je suis content que ce soit là.
Bon, Ellie, on a parlé des nouveautés. Il reste quand même des bugs assez incroyables hein, dans cette version.
Bah, en fait, moi, j'en veux à Apple parce qu'ils ont cette tendance à vouloir tout contrôler. Et en fait, depuis tvOS 12, Apple a soigneusement fait disparaître une fonction qui était super pratique pour le son, qui s'appelait pass-through, qui était en fait dans les réglages, et qui disait, bah, en fait, si le son... je ne le comprends pas, je le laisse passer. On pouvait choisir, évidemment, de le faire ou pas. Pourquoi ? Parce que l'Apple TV gère très bien du son jusqu'en 5.1. 5.1, ça veut dire 5 haut-parleurs dans la pièce plus un caisson de basse. Mais de plus en plus, aujourd'hui, et le Dolby Atmos on est la preuve, on utilise parfois 7 enceintes dans une pièce. Des fois 9, mais bon. Et donc, tout ce qui est au-delà du 5.1, Apple savait pas le gérer, mais avant le laissait passer. Et donc votre ampli Home Cinema, lui, savait très très bien le gérer. Hein, donc il n'y avait pas de souci. Ben, ils l'ont interdit. Et donc les applications tierces étaient vraiment très embêtées parce que les clients disaient « Mais comment ça se fait? Le son est pourri maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Ben, c'est Apple. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont bloqué toutes ces fonctionnalités de son avancé pour toutes les applications qui n'utilisent pas le streaming, c'est-à-dire qu'évidemment Apple TV+, ça marche nickel, Netflix nickel, Amazon Prime un peu moins nickel, mais quand même souvent bien. Mais si vous avez un NAS avec votre collection, avec 3000 films dans votre salon et vous voulez jouer un truc, eh ben le son il passe pas parce qu'Apple le bloque. Enfin, il passe pas, si vous avez un son pourri, mais parce qu'Apple le bloque. Et donc ça, c'est très méchant et très mauvais. Et on n'est pas content. Et il y a eu une pétition des développeurs. Il y a eu plusieurs milliers de signatures à ce sujet. Mais Apple l'ignore. Et on espère à chaque révision de tvOS qu'Apple va le remettre. Et bien, ils ne le remettent pas. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est ma grande déception. C'est qu'en tvOS 13, ben, on avait appris qu'on pouvait avoir les paroles des chansons en mode karaoké sur la télé, ce qui est très pratique pour les réunions entre amis.
Oui, t'en parlais la semaine dernière. Oui.
Mais oui, ben, y a eu une mise à jour 14.01 et il y avait marqué chez Apple, je me suis précipité avant de la faire, sur qu'est-ce qui change ? Correction de bug. Je me suis dit, ben, super, c'est un bug, ça va être corrigé. Pas du tout. Toujours pas de paroles.
Bon, ça va peut-être arriver.
Oui, moi je les ai sur l'iPhone, hein. C'est une consolation.
On va faire une pétition.
Ouais, moi j'ai confiance, ça va revenir. Tiens, puisque tu parles de cette micro-mise à jour 14.0.1 pour tvOS, en fait tous les OS ont eu une petite mise à jour hein, ces dernières heures.
Oui, tout est passé en 0.1.
Voilà, sans qu'on sache trop ce que ça apporte.
Aucune idée. iOS 14.0.1. Il y a marqué correction de bug et optimisation. Bon, très bien, parfait. WatchOS 7.0.1, pareil. iPadOS 14.0.1, pareil. Donc en fait, il y a eu toute une série de mises à jour, mais on ne sait pas ce qu'elles apportent.
On vous avait promis deux tests d'OS dans cet épisode 6. On ne vous avait pas promis un premier regard sur l'Apple Watch Series 6. Il se trouve qu'on les a récupérés. En tout cas, c'est toi qui les as récupérés, Jean-Christophe, parce que je sais qu'Eli qui les a eus, hein, n'est-ce pas, Eli? Tu les as directement confiés à tes clients. Mais toi, Jean-Christophe, tu as testé cette Apple Watch Series 6. Alors, on n'est pas encore dans le test vraiment en profondeur. Tu ne nous livreras pas de secrets sur l'autonomie, par exemple, de ces watches. Hein. Tu as besoin encore un peu de temps, mais c'était intéressant avec toi qu'on voit qu'on ait ton premier sentiment. Alors, tu passes de la série 4 à la série 6. Est-ce que tu es gagnant ?
Alors oui, Mais d'abord, je vais faire un petit retour sur la gamme. Moi, depuis le début, je n'utilise que des watches acier. J'aime pas l'aluminium, ce qui me prive de la belle couleur bleue qui me tentait bien cette année. Mais je préfère les montres en acier. Je suis vraiment amateur de montres. Et donc, j'en ai commandé deux pour tester. L'acier que j'ai depuis plus d'une semaine et la titane que j'ai reçue lundi. Donc c'est la titane que j'ai au poignet, et si je peux faire un petit aparté, c'est assez intéressant parce que l'acier est à 829 et la titane à 879, donc on est à 50€ d'écart. C'est toujours plus cher et c'est beaucoup d'argent pour une Apple Watch, certes, mais voilà, ça permet de se faire plaisir sur des matériaux un peu différents, et on est loin des trucs à soit la 1500 pour les versions Hermès ou 10 000 en or qu'on a connu au tout début. Spoiler, je suis pas fan du titane, pour le coup. C'est, j'aime pas tellement les montres noires et je suis assez déçu. Elle est un peu terne. Je trouve qu'elle apporte pas grand chose. Donc voilà. Après avoir dit du bien de l'édition accessible, je dis que moi je suis un peu déçu. Mais voilà, les goûts et les couleurs. C'est en tout cas intéressant de voir qu'on peut tenter l'aventure pour un peu moins cher. Dire un mot aussi des bracelets. Alors évidemment, Apple ne pouvait pas prévoir le coronavirus et on est content qu'Apple ait sorti les watches plutôt que de les retarder comme ils le font pour les iPhones. En revanche, c'était pas la bonne année pour annoncer des bracelets à mesurer soi-même. J'ai imprimé le bout de papier, je l'ai mis autour de mon poignet, j'ai noté les tailles. Évidemment, mon bracelet en tissu a deux tailles de trop. Et mon bracelet boucle moderne a... je peux pas le fermer. Donc heureusement que j'ai gardé avec moi le beau bracelet que nous avait prêté nos rêves et qu'on avait testé dans iWeek il y a quelques années, qui lui marche très bien. Mais voilà, je suis pas emballé par les nouveaux bracelets, ou en tout cas, effectivement, on sait qu'il y a eu un petit loupé de la part d'Apple qui, pendant quelques jours, obligeait à retourner l'Apple Watch et le bracelet si on avait un problème de taille de bracelet. Ce qui, en termes logistiques, doit être monstrueux à gérer. Heureusement, ils ont changé leur fusil d'épaule et on va pouvoir retourner son bracelet et en recommander un autre. Sauf qu'effectivement, je pense que le cauchemar n'est pas fini. Il faudrait vraiment pouvoir les tester en personne. Donc voilà, ça c'était un petit point sur la gamme et sur mon ressenti d'acheteur.
Donc on a compris, on reste sur les bracelets classiques et on choisit plutôt le modèle acier. Ça sert à rien de dépenser 50€ de plus pour le modèle titane.
Sauf si, comme certains qu'on connaît, vous êtes fou de titane. Pour moi, le titane, c'était un magnifique powerbook. Ça fait pas une chouette montre.
Bon, ok, c'est compris, Jean-Christophe. Alors maintenant, en termes d'utilisation, de puissance, de réactivité, et puis les nouvelles fonctions, qu'est-ce qui t'a plu d'abord ?
Alors, j'ai pas fait effectivement, comme tu le disais, de mesures d'autonomie précises, mais de manière complètement empirique, et pour vous raconter un peu ma vie, je me suis levé à 7h du matin hier, j'ai mis mon Apple Watch, je me suis couché à 4h du matin cette nuit, donc 4h du matin le jour d'après, l'Apple Watch marchait encore. Comme je me suis couché tard, je vais pas faire le calcul, mais ça fait un paquet d'heures. Et donc même toi, Benjamin, qui de manière notoire avait des problèmes d'autonomie avec les Apple Watch, peut-être que là, tu pourrais t'en servir.
Bon.
Le problème...
C'était pas le cas avant ? C'était pas le cas avec la précédente ?
Ah non. Non, clairement, j'ai un chargeur d'Apple Watch branché à mon MacBook pour pouvoir le charger pendant ma nuit de travail. Mais effectivement, j'ai des heures de travail un peu complexes. Ça doit pas s'appliquer à tous les utilisateurs de Watch. C'est un très bon point. J'ai un souci en revanche, mais là encore, comme disent mes amis américains, your mileage may vary. Ça dépend de vos conditions d'utilisation, ça dépend de la durée de vos journées, tout bêtement. Je n'ai jamais pu utiliser le suivi de sommeil, parce que très gentiment, l'Apple Watch vous prévient quand elle a plus que 30% de batterie et qu'il faut la recharger, sauf que moi, je travaille encore à ce moment-là, donc je la garde et je ne la recharge pas, et voilà. Donc c'est un peu dommage, parce que ça m'amuserait de tester, mais je n'arrive pas à être dans les conditions nécessaires. De la même façon, j'ai pas testé l'oxygénation. Parce que voilà, j'ai pas trouvé le temps et que ça ne me concerne pas, même si voilà, ça pourrait aider des membres de ma famille, donc c'est quelque chose à regarder de près. Et je dirais que lors de la keynote, j'ai un peu soupiré, y compris sur Twitter, en disant bon, voilà, on en fait des tonnes là-dessus. J'ai depuis appris que certains membres de ma famille étaient concernés. Et donc voilà, c'est toujours intéressant d'aller du macro au micro et de s'apercevoir en fait que ce que fait Apple, ça peut pas faire rêver au moment d'acheter une watch, et en fait ça a une vraie différence. Par exemple, la détection de chute, je vous raconte pas ma vie, mais j'ai l'occasion de tomber quelquefois, n'a jamais marché pour moi. En revanche, voilà, l'oxygénation dans le sens, ça peut servir à d'autres, donc pourquoi pas, et bravo Apple pour continuer à creuser ce sillon-là.
Tu as sauté la série 5, donc tu découvres aussi le Always On Display.
Alors oui, et je suis extrêmement étonné, ça ne m'a jamais manqué lors de la série 4, et vraiment, c'était exclu d'upgrader en 5 juste pour ça. Je regarde mon Apple Watch toute la journée. Et pour le coup, je pense que je ne pourrais pas revenir en arrière et que je vais sans doute acheter la 6, donc sans doute l'acier, pour cette raison-là. Par ailleurs, de ce que j'ai lu, l'écran est beaucoup plus lumineux que sur la 5, donc ça, j'ai pas de point de comparaison, mais effectivement, c'est très agréable. Elle est extrêmement lisible. Elle est extrêmement lisible quand on fait du sport. Elle reste lisible quand elle est justement en always on, y compris sur des cadrans un peu tarabiscotés comme celui que j'aime beaucoup, le GMT, pour des raisons évidentes. Donc c'est vraiment sympa. Et effectivement, voilà, je recommande de l'utiliser parce que on n'est plus du tout sur un gadget, mais sur une vraie. Ça rend l'utilisation beaucoup plus agréable. Et surtout,
on va rappeler Jean-Christophe que l'Always On Display, ça permet d'avoir toujours un affichage sur l'écran, ce qui n'était pas le cas jusqu'à la série 4. Quand on n'utilise pas la watch, l'écran s'éteint et il faut le réactiver à chaque fois. Depuis la série 5, on a toujours l'heure et l'écran principal allumé, visible en tout cas.
Exactement. Et encore une fois, ça fait partie des choses. Alors, c'est dangereux parce que peut-être que vous êtes très content avec votre série 4 et que vous devez faire attention à votre budget. Je peux vous dire que au bout d'une semaine au poignet, ça fait une vraie différence. Et ça ne me manquait en rien avant.
Comme quoi, on s'habitue au progrès.
Exactement. Un mot, peut-être encore une fois, avec mon ressenti de série 4 sur la rapidité. Là encore, ouais. Autant la série 0 était une catastrophe, la série 4 pour moi c'était un bon quantique, et ça rendait les apps enfin utilisables. Je sens vraiment une différence sur la série 6, et là encore, bon, alors évidemment comme tout le monde, j'utilise pas beaucoup d'apps, mais quand même le fait de pouvoir justement depuis WatchOS 7 et iOS 14 lancer des raccourcis directement sur la watch, et donc par exemple, François ne me démentira pas, pouvoir allumer et éteindre des lampes ou sa bouilloire directement depuis la watch, et ben c'est beaucoup plus rapide, et on est beaucoup plus enclin à l'utiliser plutôt que de sortir son iPhone. Là encore, on aurait aimé que ça arrive beaucoup plus tôt, j'aurais aimé que ça soit le cas sur ma série 4. Je trouve que ça pourrait justifier un changement de gamme.
Tu as toujours été sensible au design de l'Apple Watch et tu souhaites depuis longtemps qu'il évolue. Il n'y a pas de changement là, majeur.
Eh ben, c'est pour ça que j'insiste, c'est très bien vu Benjamin, c'est pour ça que j'insiste sur des choses inattendues. C'est qu'honnêtement, justement, j'avais changé pour la 4 parce que le design, on se souvient, l'écran était beaucoup plus grand, recouvrait plus la watch, ça faisait une vraie différence. Aujourd'hui, ça n'est évidemment pas le cas. La rumeur prétend qu'enfin l'année prochaine le design pourrait évoluer. Je me pose vraiment la question, est-ce que j'achète ce qui est encore une watch de transition, avec le reste, et justement s'agissant d'un design que je trouve vieillissant mais auquel j'ai pas de gros reproches à faire, et je vais sans doute me laisser tenter. Je serais curieux de savoir ce que nos amis en pensent.
Merci pour ces premières impressions, Jean-Christophe, sur l'Apple Watch Series 6. Pour les bracelets, vous l'avez compris, les tailles, c'est une galère. Ça tombe bien que tu sois là, Jean-Christophe. Ne bouge pas, la mise en orbite est immédiate. Alors Jean-Christophe, vu d'ailleurs, n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque aujourd'hui, tu vas nous emmener dans la Lune.
Alors presque. Je vais vous parler du nouveau service Luna, qu'Amazon a annoncé la semaine dernière, et qui est en bêta privée pour certains de ses clients américains. L'annonce est intéressante, d'abord parce que c'est un nouvel entrant dans le jeu en streaming, après Google Stadia, Nvidia, et aussi Microsoft, dont les démêlés avec Apple sur le sujet ont beaucoup fait parler il y a quelques semaines, vous vous en souvenez peut-être.
Ouais. Et Apple refuse de proposer des services des services identiques en téléchargement sur l'App Store, hein, c'est ça ?
C'est ça. En fait, Apple a revu ses règles récemment pour permettre aux jeux en streaming sous certaines formes d'être acceptés sur l'App Store. Certaines formes, ça veut dire packager chaque jeu en streaming sous forme d'une app. Donc Microsoft, le premier, s'est exprimé pour dire que la solution était beaucoup trop compliquée pour l'utilisateur et donc qu'il ne souhaitait pas le faire. Et pour l'instant, le fameux service xCloud ne figurera donc pas sur l'App Store.
Ouais. Et Amazon alors ?
Eh ben, c'est là que ça devient intéressant. Amazon, dans un mois où justement Apple a subi des cris sur les réseaux sociaux, des volets de bois vert pour empêcher le jeu en streaming sur l'iPhone, Amazon annonce tranquillement que le service va être disponible sur les plateformes iOS. Alors, je vous entends, ouais, Amazon et Apple, traitement de faveur, on sait notamment que Prime Video n'avait pas à payer les 30% de taxes Apple, donc c'est encore un combat d'arrière-salle, pas du tout. Bezos, enfin Jeff. Pas Jeff lui-même, mais un membre de l'équipe a déclaré à Engadget que Luna fonctionnera dans Safari.
On va voir. Hein. À propos des fameuses web apps dont Apple nous vantait les mérites, avant de devoir créer l'App Store parce que les développeurs n'en voulaient pas, tu es sûr que ça va marcher ?
Bah d'abord, le web et les navigateurs ont un peu changé depuis 2007. Il y a ce qu'on appelle les Progressive Web Apps, ou PWA, qui permet normalement d'utiliser des fonctions hardware du téléphone à partir d'un site web. J'ai évidemment pas pu vérifier. Je me suis inscrit, mais j'ai pas encore reçu l'invitation. En revanche, ce que je trouve passionnant, c'est bien la démarche d'Amazon. Ils disent clairement qu'ils ont travaillé avec les ingénieurs d'Apple pour que Safari puisse supporter Luna. Au moment où certains gros éditeurs, Spotify, Epic, Tinder, montrent leur espèce de coalition un peu pathétique, faut bien le dire, contre Apple, et que Epic vient de se faire envoyer dans ses buts par une juge californienne il y a quelques jours dans la fameuse affaire des 30%, Bezos, lui, est pragmatique. Il refuse de se priver des millions d'utilisateurs d'iOS, donc il s'adapte avec une web app en travaillant avec l'équipe de Safari. Les utilisateurs que nous sommes en profiteront, et moi je trouve ça très bien.
Est-ce que tu penses que ce pragmatisme d'Amazon pourrait faire école ?
Bah, il est trop tôt pour le dire, mais Microsoft, la semaine dernière, a donné une interview à une grande chaîne américaine que j'ai pu regarder. On est très loin de la réponse du claquage de porte, hein, clairement, qu'on a vu il y a un mois où Microsoft a dit que l'expérience utilisateur proposée par Apple était tellement mauvaise qu'il n'en serait pas. Lors de l'interview, le représentant de Microsoft dit que on va trouver une solution, on travaille avec Apple, on est vraiment dans une atmosphère de compromis. De façon extrêmement intéressante, Microsoft teste justement sur TestFlight, la plateforme des bêtas pour les développeurs, une nouvelle version de l'app Xbox, qui existe depuis longtemps, qui va permettre de jouer en streaming sur des jeux contenus dans sa propre Xbox. Donc c'est pas un marché virtuel comme le propose xCloud, mais c'est déjà une étape extrêmement importante sur le jeu Xbox dans une plateforme iOS, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un iPad. Là encore, pas d'entourloupe. Apple autorise depuis très longtemps sur l'App Store les prises de contrôle à distance. On pense aux nombreuses apps VNC et au PlayStation Remote qui existe déjà depuis des années. Microsoft lui emboîte le pas. Ça me semble une solution extrêmement intéressante, et surtout, tu sais que je suis juriste à mes heures perdues, je pense clairement que c'est un des signes que la solution viendra de ce genre de tractation et de discussion constructive plutôt que dans une salle d'audience. En attendant que les apps soient disponibles, moi je vais racheter une manette.
Dans un instant, ma maison connectée avec toi, François Petit Rigolo, et le détecteur de fumée Netatmo. Ma maison connectée, notre rendez-vous hebdo avec la domotique façon Apple. François, tu t'intéresses cette semaine à un appareil de sécurité hyper important, même désormais obligatoire, hein, si je ne me trompe pas, dans les maisons et les appartements. Il s'agit d'un détecteur de fumée et plus particulièrement du modèle connecté proposé par Netatmo.
Et oui, comme tu l'as dit Benjamin, aujourd'hui on est tous censés avoir un détecteur de fumée. Généralement on a tendance à acheter le détecteur de fumée à 5€ qu'on trouve à Castorama ou autre, avec une pile qui va durer un temps relativement limité quand même la plupart du temps. Moi j'ai décidé de vous parler du détecteur de fumée de Netatmo, une entreprise qu'on connaît bien. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler des thermostats connectés en particulier. Ils ont toute une gamme de produits, dont des caméras, etc. Et comme son nom l'indique, en fait c'est un détecteur de fumée qui avertit s'il y a de la fumée. Et voilà.
Ouais, super. Bon, tu crois pas que tu vas t'arrêter là, quand même, François. Raconte-nous un peu ce qu'il a dans le ventre, ce détecteur de fumée.
Alors, bah, le principe, en fait, son nom, comme son nom l'indique, c'est un détecteur de fumée qui est connecté. C'est-à-dire que du coup, quand vous l'installez, vous le reliez à votre téléphone. Donc, il y a deux types de connexion. Il y a du Wi-Fi et il y a du Bluetooth LE. Donc, si vous êtes HomeKit comme la plupart d'entre nous, en fait vous pouvez directement le connecter du coup à votre pont de connexion du type HomePod ou Apple TV par exemple, et vous retrouvez le détecteur de fumée directement intégré dans l'application maison. L'intérêt c'est quoi? C'est que si par hasard il y a le feu dans la maison, et ben vous allez avoir à la fois la sonnerie qui va retentir dans la maison, donc 85 décibels, hein, c'est une sonnerie classique, hein, comme n'importe quel détecteur de fumée, et vous allez en plus avoir une notification sur le téléphone. Alors, moi, le schéma que j'imagine, je vous rassure, je ne l'ai pas encore testé en vrai, et j'espère que ça arrivera pas tout de suite, hein. Ouais, mais j'imagine que si... Ouais, j'espère. J'imagine que je suis à distance, la première chose que je vais faire, c'est dégainer mon téléphone, regarder ce qui se passe avec la caméra, si la caméra n'a pas brûlé, évidemment, on peut espérer, vérifier que ce n'est pas une fausse alerte, et auquel cas, du coup, à distance, on peut directement prévenir les pompiers pour que les pompiers interviennent. Ouais. Ce que je trouve vraiment sympa avec ce détecteur de fumée, déjà dans le boîtier vous avez tout, c'est-à-dire que vous avez les vis, les chevilles, il n'y a vraiment plus qu'à le fixer. On vous conseille sur le site internet ou sur le petit livret qui est fourni avec où est-ce qu'il faut l'installer, parce que je vous rappelle il y a un endroit particulier. Et puis l'autre, vraiment le gros plus, c'est son autonomie de 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans vous n'allez pas être embêté, il n'y aura pas d'histoire de changement de pile, il restera fonctionnel. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, une fois passé les 10 ans, c'est pas une batterie qui peut se changer, c'est-à-dire qu'en gros, le détecteur de fumée, dans 10 ans, c'est poubelle.
Ça c'est le curieux, à une époque où on ne jette pas au premier changement de pile. Enfin, ouais.
Et bien là, en fait, c'est expliqué sur le site internet, au bout de 10 ans, ils considèrent que le détecteur de fumée, en fait, est bon à changer, que les capteurs, en fait, qui sont intégrés, ne sont plus fonctionnels. Donc cet argument-là se tient, du coup, l'histoire des capteurs. Il y a quelques petites fonctionnalités sympas aussi, comme le fait que tous les mois, le détecteur fait un test. Et donc, du coup, vous recevez une notification sur votre téléphone comme quoi le détecteur est bien connecté au Wi-Fi et qu'il fonctionne.
Ça ne sonne pas tous les mois à 85 décibels, quand même.
Il n'y a aucune sonnerie, ça teste juste le Wi-Fi. Et si D'accord. vous avez envie, vous pouvez tester la sonnerie, mais à un niveau moindre, en fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire sonner au maximum. Et donc, avec iOS 14, qu'on a évoqué la semaine dernière, vous retrouvez l'icône. En fait, il n'y a plus d'application, de petite icône dédiée. C'est directement intégré dans le petit module qu'on a évoqué en haut, où vous avez tous les statuts, en fait. Donc, ça indique bien que le détecteur de fumée est bien actif. J'ai mis un peu de temps à le trouver quand j'ai préparé ma rubrique. Je me suis dit, mais il est où, mon détecteur de fumée? Et en fait, maintenant, il n'est présent qu'en haut, dans le petit bandeau. Il n'y a plus de tuiles prévues à cet effet directement dans l'application.
Ok. Donc, pas mal de points positifs. Qu'est-ce que tu mettrais dans la case des inconvénients?
Alors, moi, il y en a plusieurs. Donc, déjà, l'histoire de la batterie qu'on a évoquée. Alors, ça se tient d'un point de vue capteur de sensibilité à la fumée. Maintenant, je trouve ça quand même dommage. Au bout de 10 ans, le jeter... Voilà, c'est d'un point de vue écologique, c'est pas top. L'autre petite limite que je trouve, c'est qu'en fait Netatmo a développé plusieurs applications. Et en fait, pour utiliser un thermostat connecté, il faut utiliser une application. Et pour utiliser le détecteur de fumée ou la caméra de sécurité, par exemple, ils vendent aussi des petits détecteurs d'ouverture de porte. Il faut télécharger une deuxième application. Évidemment, une fois qu'on l'a relié à HomeKit, on peut supprimer l'application. Maintenant, si vous supprimez l'application, vous perdez quelques fonctionnalités. C'est un peu le même principe que l'application Eufy pour les Eufy Cam que Ellie nous avait présenté il y a 3 semaines. Je trouve ça un peu dommage, une application nettement aurait suffi. L'autre petit inconvénient, c'est le fait qu'il détecte que la fumée, il détecte pas le monoxyde de carbone. Donc si par hasard votre chaudière fuit, en fait le boîtier ne vous préviendra pas. Il existe des boîtiers qui détectent le carbone, Fibaro. Oui. Par exemple en vent, mais ça veut dire que vous êtes obligé de racheter un deuxième capteur. Il y a des capteurs qui le font, comme le capteur Nest, qui fait à la fois la fumée et le monoxyde de carbone, mais il n'est pas compatible HomeKit. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Netatmo.
Bon. Et on n'a pas parlé du prix.
Et le prix, c'est un certain prix quand même. C'est environ 100€. Moi, j'avais touché en promo aux environs des 80€. Maintenant, il y a un paramètre qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a quand même une grande autonomie, c'est-à-dire que le capteur, vous allez le garder 10 ans. Ça fait 120 mois. Donc 100€ rapporté à 120 mois, ça vous fait un détecteur de fumée à moins de 1€ par mois. Je trouve que c'est à peu près raisonnable pour pouvoir avoir une notification sur votre téléphone s'il y a un incendie. Alors moi, je suis en appartement, donc ça veut dire que si par hasard la sonnerie se déclenche, que ce soit un détecteur de fumée connecté ou pas, mes voisins entendront et du coup je pense préviendront les pompiers théoriquement. Par contre c'est vrai que si on est en maison, s'il y a personne dans la maison, le fait d'avoir ce détecteur de fumée, ça peut du coup vous donner une notification et peut-être vous permettre de sauver pas mal de choses. Donc voilà, c'est un achat qui est geek, mais geek utile.
Ellie, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, mais François a été plus rapide que moi. En fait, je voulais insister sur le fait qu'un détecteur de fumée, qui est d'ailleurs obligatoire comme il l'a dit, c'est bien, mais quand vous habitez un peu isolé, ben, ça fait beaucoup de bruit, sauf qu'il n'y a personne à la maison pour l'entendre. Et donc la maison peut brûler de bas en haut avant que quelqu'un intervienne. Et souvent, les voisins ne sont pas si gentils que ça. Donc il vaut mieux que vous soyez prévenu vous et que vous le gériez vous. Et certes, c'est un peu plus cher, mais pensez à tout ce que vous avez dans votre maison. Si ça brûle, vous allez regretter de ne pas avoir eu un détecteur de fumée communicant.
Bien sûr. Et c'est vrai que la combinaison entre le détecteur et la caméra... Et je pense très très importante parce qu'on peut immédiatement vérifier s'il y a de la fumée, s'il y a des flammes, ou si tout est normal.
C'est d'ailleurs pareil avec les systèmes d'alarme. Un système d'alarme, c'est très bien, mais si on a une caméra pour pouvoir contrôler, c'est mieux.
Bah oui, bien sûr. Un mot à propos de Netatmo, François. Je sais que ton appel a été entendu et d'ici quelques semaines, on aura le plaisir d'avoir un autre test avec toi.
Et oui, théoriquement, je vais pouvoir vous tester la sonnette connectée.
Ah oui.
Et ça va être très fun. Et je vois qu'Ellie est mort de jalousie.
Mais oui, ça va être formidable. Donc cette interphone, en fait, avec une caméra intégrée, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ça paraît hyper, hyper intéressant. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et puis, voilà, il y a toujours pareil, le double côté pour moi, sécurité et geek, quoi. Je trouve que l'un va bien avec l'autre pour la maison connectée.
Nos coups de cœur de la semaine avant de nous quitter, on commence avec toi, Ellie.
Allez, pourquoi pas. Allez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur qui sera suivi d'un test beaucoup plus complet, parce qu'en fait, c'est un produit, c'est même un écosystème dont je n'avais pas entendu parler avant midi aujourd'hui, donc c'est extrêmement récent.
Ah oui.
Mais surtout, dont la plupart des utilisateurs dans le monde n'avaient pas entendu parler il y a 3 ou 4 mois. Alors, imaginez, ça s'appelle Roon, et donc si nos auditeurs connaissent Roon, R-O-O-N, ils peuvent nous le dire par Twitter, on donnera peut-être un prix au geek de la semaine.
Oui, avec le hashtag iWeekLSA, comme la semaine Apple.
Exactement, parce qu'en fait, vraiment, j'ai eu une petite démo très rapide, j'attends de tester moi-même, et je suis tombé vraiment de haut en voyant ça, parce que est-ce que vous vous rappelez qu'Apple avait essayé à un moment donné, il y a quelques années, de créer une sorte de réseau social pour fédérer la musique, pour que les gens puissent discuter,
ping,
oui, de leurs artistes préférés et des choses comme ça, et ça n'avait pas du tout marché. Et bien, figurez-vous que Roon l'a fait. Et l'a fait en quelques mois. Ils ont fait en fait un système qui n'est pas qu'Apple. Il s'interface sur tous les écosystèmes que vous voulez et il va cataloguer votre musique, qu'elle soit stockée sur un NAS, qu'elle soit stockée sur un iPhone, sur un iPad, sur le cloud, il reconnaît tous les systèmes de musique. Il va vous la cataloguer. Il va vous trouver les pochettes. Il va vous trouver les paroles. Il va vous trouver tout l'historique des artistes. Il va vous trouver les concerts à venir, les concerts passés, tous les liens les plus bizarroïdes pour vous permettre de vivre cette expérience. Le tout dans une interface utilisateur qui est incroyable. Et surtout, c'est devenu un tel phénomène en quelques mois que les fabricants d'ampli haut de gamme ou d'enceintes haut de gamme, comme de Vialet, mais comme des tas d'autres, maintenant mettent sur leurs produits Rune compatible, parce que s'ils ne le mettent pas, les audiophiles haut de gamme n'achètent pas les produits, parce que c'est devenu une sorte de must. Soit vous êtes Rune, soit vous êtes un has-been. Bon, jusqu'à maintenant, moi je l'étais, hein, je l'avoue. Ah bah oui. Hein.
Moi, complètement, moi, en ce qui me concerne.
Mais surtout, évidemment, le truc, c'est que c'est un service payant. Donc, vous avez, je pense, une période d'essai gratuite, c'est ce qu'ils disent sur leur site. Et ensuite, je crois que c'est de l'ordre de 10 euros par mois. Tout ceci à confirmer, bien entendu, parce que c'est trop récent pour que j'aie eu le temps d'essayer. Mais je vous conseille d'aller voir sur le site qui s'appelle runelabs.com, runelabs.com, et il vous explique comment ça fonctionne, il vous explique les fonctionnalités, il vous explique toutes les tierces parties qui travaillent avec eux, et c'est absolument incroyable. La liste, elle est incroyable. Et vraiment, c'est à explorer. Alors évidemment, entre autres, ça lit tous les formats audio que vous voulez, y compris les formats non compressés comme le FLAC, comme le 24 bits, etc. Donc, et franchement, jetez un coup d'œil. On va faire un test, on vous dira ça très bientôt. Mais ça va devenir un must pour ceux qui veulent de l'audio haut de gamme. Vous pouvez gérer évidemment toute votre courbe sonore, vous pouvez faire des trucs, enfin on fera un test complet, mais c'était juste pour vous donner envie de découvrir ça. Moi, ça a été ma découverte de la semaine, et donc j'espère que ça sera peut-être la vôtre.
Ah bah écoute, en tout cas ça donne très très envie. Merci beaucoup Ellie pour ce coup de cœur. Donc Rune, pour votre musique. Autre coup de cœur, Jean-Christophe, alors ça me fait plaisir parce que tu vas parler de quelqu'un qu'on a très bien connu, toi et moi.
Alors oui, c'est un coup de cœur un peu sentimental à plus d'un titre. Je voulais tirer mon chapeau à vous et votre Mac, donc un mensuel qu'on trouvait dans les kiosques jusqu'à il y a peu. Vous savez tous, on sait tous, et Benjamin et moi, on y est particulièrement sensible, que la presse vit des moments extrêmement difficiles, notamment à cause du Covid. On voit beaucoup d'entreprises de presse qui souffrent et qui mettent la clé sous la porte. Et Benjamin et Alain, qu'on connaît bien, puisque on a...
Bernard et Alain, tu veux dire?
Bernard et Alain, puisque Benjamin et moi, on a travaillé avec eux très longtemps, on subit les mêmes problèmes de distribution et de vente. Ils avaient fait quelque chose de sympa pendant le confinement. Ils permettaient d'acheter leurs archives en bloc pour 15 euros. C'est un vrai pan de l'histoire du Mac, plein de tutoriaux extrêmement utiles. Évidemment, j'avais sauté sur l'occasion. Et à la fin du confinement, en regardant leur compte, ils se sont vraiment posé la question d'arrêter parce que les temps sont extrêmement durs. Eh ben, ça ne t'étonnera pas, Benjamin, on les connaît. Plutôt que d'arrêter, au contraire, ils redoublent d'efforts et ils ont lancé une newsletter hebdomadaire. Petit clin d'œil, Benjamin, tu sais comme c'est dur de lancer un hebdo. Je trouve qu'on peut tirer notre chapeau à nos amis qui se réinventent à un moment où voilà, tant de gens doivent jeter l'éponge. Moi, je trouve ça génial. Alors, ça se lance évidemment en ligne pour couper tout un pan du modèle économique qui aujourd'hui est de plus en plus difficile à tenir. Mais justement, on est de plus en plus nombreux à utiliser des iPads. Je trouve que avoir toutes les semaines du contenu Mac informé avec des tutoriaux et avec justement Bon, on va pas se mentir, hein, ces coups de gueule, ce supplément d'âme qu'on essaye aussi de vous donner dans iWeek LSA. Voilà, je trouve que c'est à saluer et moi j'étais content de m'abonner.
Voilà, bravo Bernard et à bientôt dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. François, je crois que c'est aussi ton coup de cœur.
Et oui, je crois que les grands esprits se rencontrent. C'était aussi ce que je voulais souligner aujourd'hui. Je me suis abonné depuis le premier numéro à la lettre de Vous et votre Mac et je trouve ça vraiment sympa. Ce que j'aime beaucoup avec la plume, c'est le côté tutoriel et c'est vraiment très bien détaillé. Voilà, petit coup de cœur. Si vous l'avez pas encore fait, c'est l'occasion de soutenir la presse aussi. Hélas, plus presse papier, mais au moins presse en ligne.
Voilà, et puis j'ai checké les tarifs parce que je les avais plus en tête. C'est pas très cher, hein. C'est 16€ pour 20 numéros. Donc ça va vous couvrir 6 mois et donc 32€ pour un an. Donc abonnez-vous à cette newsletter de Vous et votre Mac. C'est vraiment une très belle initiative. C'est la fin de cet épisode 6. Autant vous dire qu'on n'avait aucun espoir de faire moins d'une heure. On espère que ça vous a sinon passionné, du moins plu et intéressé. Je jette un œil à Twitter puisque le sondage du jour portait sur la presse en ligne, les contenus premium. La question était: combien dépensez-vous par mois pour du contenu en ligne premium de la presse payante ? Alors plus de la moitié d'entre vous ne dépense pas un euro, hein, 0€, que du gratuit. Il y a encore un petit peu de chemin sans doute pour vous convaincre que le contenu premium a une valeur. Vous êtes en revanche un tiers, 32% exactement, à dépenser au moins 5€ par mois pour des contenus premium. 16% dépensent entre 5 et 10€ et 16% d'entre vous dépensent plus de 10€ par mois. Bah, j'ai envie de vous dire bravo, ce sont sans doute vous les futurs abonnés de Vous et votre Mac. Moi je me suis abonné au New York Times cette semaine puisqu'il y a une promo à 2€ par mois si je ne me trompe pas pendant un an. Voilà, c'est la première fois que je m'abonne aussi à du contenu premium en ligne, je l'avoue, mais il faut soutenir les médias qui mettent des moyens, qui font de l'enquête, et puis voilà, c'est un peu le sens des choses en ce moment. On vous donne déjà rendez-vous jeudi prochain, le 8 octobre 2020, pour l'épisode 7 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. D'ici là, on reste à votre écoute sur Twitter avec le hashtag iWeekLSA. Bah, vous pouvez réagir à l'épisode, bien sûr, nous poser vos questions. On est à votre écoute, on adore échanger avec vous et on lit tous vos messages, alors profitez-en. Followez-nous, le compte Twitter c'est iWeekNews, on est aussi sur Insta, iWeek.news et sur Facebook. Et puis parlez de nous autour de vous, à vos collègues, à vos amis, aidez-nous à élargir le cercle et la communauté, on a besoin de grandir. À ce propos, actu oblige, on parlera de Patreon la semaine prochaine, c'est promis. On a plein de choses à vous raconter, à vous proposer, pour vous donner encore plus envie de nous soutenir. Enfin, si ça n'est pas fait, abonnez-vous au podcast, c'est gratuit et en un clic, vous faites en sorte que chaque nouvel épisode arrive automatiquement dans votre iPhone ou votre Mac pour nous écouter n'importe où, y compris sans réseau dispo, et ça c'est super pratique. Passez une très belle soirée. Salut les amis. Salut François.
Salut à tous.
Salut Ellie.
À la semaine prochaine.
Bisous à Jean-Christophe et à Gilles. Passez un bon week-end et on se retrouve jeudi prochain avant 20h. Salut à tous.